Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Becketch, diffusé en direct mercredi 15 mars 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 16 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Vous savez, je vis aujourd'hui le syndrome de l'abandon. Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'abandon ? Ça fait des bébés qui grossissent pas, qui restent tout maigres et pauvres et tristes et tout. Mais moi, c'est ce que je suis en train de vivre parce que ils m'ont tous lâché, tous. Victoria, absente au bataillon. Le Marquis, absent au bataillon. Goffman, absent au bataillon. Et qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis tout seul. Enfin, grâce à vous, madame et messieurs. Je pourrais essayer d'assumer cette heure et demie. Après, je passerai le flambeau à la jeunesse et j'irai pleurer dans mon coin. Voilà, en proie à la tristesse des vieillards dont on a secoué le cocotier. Je reçois ce soir Madame Ferrandis.
Bonsoir.
Bonsoir, madame, qui est, que les auditeurs connaissent, qui est la présidente de l'association des parents et proches des victimes de la rue d'Isly, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, je ne sais jamais comment ça s'appelle.
On pourrait appeler comme ça. Oui. En fait, c'est l'association des familles des victimes.
Des victimes, voilà.
Et puis de leurs alliés, parce qu'en fait, après tout, nous avons des gens qui sont tout à fait, qui n'ont pas vécu ce drame, mais qui nous sont tout à fait favorables, et bien sûr, ils peuvent nous soutenir, bien évidemment.
Alors, on approche de l'anniversaire de cette tragédie, on en parlera. Je reçois également Monsieur l'abbé Cellier, prêtre-éditeur.
Oui, éditeur-prêtre. En tout cas, bonsoir.
C'est à vous de voir, là. qui nous parlera du dernier numéro de Fidélitaire qui est consacré au catéchisme. Et puis des dernières productions de cette énorme boîte d'édition catho-tradie qui s'appelle les éditions Clovis. Je ne me trompe pas.
Dernière nouvelle, enfin, c'est ce que j'ai vu dans...
Vous êtes toujours le patron ?
Disons que j'assume une certaine responsabilité.
Non, mais c'est pour savoir.
Pour tout ce qui est mauvais, c'est moi. Bon. Pour tout ce qui est bien, c'est mes collaborateurs.
À propos de Clovis, je crois que vous êtes plus ou moins lié, même de loin, à une librairie qui s'appelle France Livre.
Voilà, ça c'est une excellente librairie qu'on ne peut trop recommander.
Elle est meilleure que son nom.
Voilà.
Je ne céderai pas là-dessus, je continuerai à dire qu'il faut dire... Enfin bref, donc c'est 6 rue du Petit Pont.
Voilà, dans le 5e, à côté de Saint-Denis.
C'est une librairie extrêmement sympathique. Vraiment, d'abord il y a toujours du monde, en général des gens bien. Il y a beaucoup de livres, ce qui dans une librairie est vraiment gros, normal, mais... Des livres bien choisis, intéressants et tout. Il y a une direction qui est extrêmement sympathique, Monsieur Jacquelot, qui est charmant, Monsieur Mancheron, qui est un homme délicieux.
Voilà, une très bonne équipe.
Très bonne équipe.
Très sympathique.
Alors je signale qu'ils recevront samedi à 15h Frédéric Pichon qui signera son livre Voyage chez les chrétiens d'Orient. Frédéric Pichon étant...
un ancien élève de l'école Saint-Michel et de l'abbé Cellier, évidemment. C'est pour ça que c'est un homme brillant.
Il a formé à la meilleure école. Non seulement il est le fils spirituel de l'abbé Cellier, mais il est le fils charnel de notre ami Pichon.
Puis surtout, donc, il a passé plusieurs années au Liban comme professeur, puisque c'est un professeur de l'éducation nationale qui a eu, une expatriation, enfin peu importe. Il a passé plusieurs années, il a donc beaucoup circulé, était en Syrie et dans beaucoup d'endroits, et il est revenu après la fin, disons, de son contrat sur place, à travers toute la chrétienté orientale, et c'est son journal de voyage, à la fois de présence et de son journal de voyage. Et donc c'est très intéressant. C'est vu, et en même temps, bien sûr, enraciné dans toute l'histoire de ces chrétientés d'Orient.
Vous en parlez comme si vous en étiez l'éditeur.
Non, j'en suis pas l'éditeur, mais bon, je connais Frédéric, et puis c'était vraiment un bon bouquin, intéressant.
Voilà, Frédéric Pichon, Voyage chez les chrétiens d'Orient, samedi, c'est 15h, je crois.
Oui, 15h, 18h30.
15h, 18h30, voilà. À la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont. Est-ce que vous voulez aller signer, Patrick Serre, votre livre 6 rue du Petit Pont à la librairie France Livre?
C'est le titre du livre ou...
Non, le livre, c'est Chine, l'Empire des 10 000 années. On va en parler ensuite avec Patrick Serre, qui était venu nous voir il y a déjà un certain temps, et qui nous avait annoncé que ces livres étaient en préparation. Et je dois confesser, tiens, bien, on va en profiter, puisqu'on a un spécialiste autour de ce micro, que je n'y croyais qu'à moitié. Je me suis dit, il ne trouvera jamais un éditeur pour faire un travail de fou comme ça, c'est-à-dire éditer une bande dessinée. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que on aurait tendance à dire des choses qui vont éloigner les gens. Or, déjà, bande dessinée, ça éloigne les gens qui sont contre la BD, et ensuite on dit didactique. Alors là,
une bande dessinée historique.
C'est d'abord sur le plan du dessin, c'est une merveille. La présentation, d'abord, c'est un format italien sous coffret, avec des couleurs splendides et tout. Et puis, Patrice est un grand dessinateur qui a, je le dis, dû sa modestie en souffrir, qui a dessiné les plus grands héros de la BD.
Ah oui, les deux aviateurs français.
Non pas Tanguy et la Verdure, mais aussi. Et combien d'autres? Et qui est un formidable dessinateur. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. En plus, c'est un spécialiste de la Chine. Cet animal est arrivé à parler chinois par des voies que je n'essaierai même pas de comprendre. Et il a fait donc un album c'est un très 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 bel objet. Et puis l'histoire de l'empereur Chine, c'est quand même assez fascinant, parce que quand on nous bassine à longueur d'année avec les crimes du regretté chancelier et autres personnages historiques, là je veux dire qu'ils sont complètement enfoncés, parce que
c'est le plus grand tyran de tous les temps.
C'est hallucinant, c'est vraiment, cette vie, mais c'est passionnant parce qu'il a quand même construit un empire.
Oui, et puis il a inventé tous les outils de nos démocraties.
Oui, en plus, c'est ça qui est
incroyable. Pour une tyrannie, il a fait ça. Ouais.
Le plus grand tyran de tous les temps est le type qui a inventé toutes les farces, toutes les impostures, toutes les arnaques de la démocratie, forcément.
Pas seulement, je veux dire, l'école gratuite et obligatoire, c'est des choses assez étonnantes. Quoi.
Oui, c'est bien ce que je veux dire, c'est toutes les arnaques de la démocratie, c'est mon opinion, que je n'ai pas forcément la vôtre, mon cher Patrice. Voilà, je fais les annonces tout de suite, parce que, comme ça, après, ça sera dit, on ne fera plus de reproches. Je signale que, d'autre part... Alors, oui, ça, on va en parler tout de suite. En mémoire des victimes de la rue d'Isly à Alger le 26 mars 1962, de celle de Lorani le 5 juillet 1962, des Harkis et de tous nos disparus en Algérie, une messe sera célébrée le vendredi 24 mars 2006 à 18h30 en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, 23 rue des Bernardins. Je crois que vous connaissez, chers auditeurs, l'adresse de l'église Saint-Nicolas, c'est peut-être pas la peine de s'attarder, devant la statue de Notre-Dame d'Afrique, qui est hébergé là-bas, dans cette belle église. Mais ça, on va en reparler avec Madame Ferrandi. Je précise également que le jeudi 23 mars, c'est-à-dire la veille, étant donné que ce sera la mi-carême, je parle sous votre contrôle, monsieur l'abbé, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. C'est bien la mi-carême.
Quand ?
Le 23 mars.
Je l'espère.
Oui, moi aussi. Mais
si c'est au milieu du carême, ça y aura une relative vraisemblance, disons.
Voilà. Le chœur Montjoie Saint-Denis, pour que ce soit quand même un tout petit peu carême, encore, donnera un récital chez la mère agitée, c'est-à-dire...
Ça, c'est carrément la passion, alors.
Ah oui, là, c'est... 21 rue Campagne Première, au métro Raspail. Il faut réserver. Au... Alors, notez bien, 01 43 35 56 64. Donc, ça fait 4-3, 3-5, 5-6, 6-4. C'est amusant comme progression. Non, ça n'a pas l'air de vous amuser du tout.
J'avais compris la première fois, la deuxième, j'ai plus rien compris.
Non, ça commence par 23 mars. Donc, le 23-3, on vous téléphonez au 4-3-3-5-5-6-6-4.
Ah oui, c'est logique.
C'est logique.
Mais non,
c'est presque, comment dirais-je, quantique, littéralement. Voilà. Et c'est la mère agitée, 21-2-1. Oui, le mec qui a complètement craqué, devenu fou, numérologiquement fou. 21 rue Campagne Première. En plus, on n'en sort pas. Voilà. Et en général, c'est bien les mi-carèmes parce que on se venge. Je crois que ce sont les seules annonces. Non, pardon. Il y a un... Je vais quand même le citer, bien qu'on n'ait pas, on n'ait pas cru nécessaire de m'inviter, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, après tout, on peut pas tout faire. Sous la présidence, c'est peut-être parce que je suis légitimiste, là, sous la présidence de Guy Steinbach et Bernard Pascot, venez nombreux en famille, stand de librairie, vente d'objets, dédicace de livres, interventions sérieuses et divertissantes, avec Jean Pia, Pierre Pinatel, Jean Raspail, Jacques Trémollet de Villers, François-Georges Dreyfus, Jean-Baptiste Denier et Hilaire de Crémier. Ah oui, c'est plutôt pour les interventions sérieuses, je vous le dis tout de suite. C'est pas... à l'hôtel Mercure, Paris Tour Eiffel Suffren, 20 rue Jean Rey, 75-015 Paris Métro Bir Hakem. C'est le grand banquet de la Restauration Nationale, le dimanche 19 mars 2006. Il n'y a pas d'heure, mais comme c'est un grand banquet, c'est ou le soir ou le matin. Alors là, il n'y a pas d'heure. Vous pouvez venir le matin, puis sinon vous attendez pour dîner.
Je pense que ça doit plutôt être le midi.
Midi, oui. Participation 45 euros. Ils ont les moyens, les orléanistes. Hein.
Ouais.
C'est pas nous. Bon, enfin, bref. Tarif familial, deuxième inscription, 40 euros. Étudiants et chômeurs, 30 euros.
Si on a une famille d'étudiants chômeurs.
Ils vous donnent de l'argent. Inscription et renseignement, 01 44 92 82 82. 01 44 92 82. Ça, c'est pour le grand banquet de la Restauration Nationale le dimanche 19 mars 2005 avec plein de gens que j'aime bien. Jean-Pierre, Pierre Pinatel, Jean Raspail, Trémollet de Villers, François-Georges Dreyfus, Jean-Baptiste Denier, Hilaire de Crémier, tout ça. Que des gens de qualité. Le seul qui manque, je ne dirai pas son nom. Parce que... Voilà, bon, ben, c'est à peu près tout ce que je voulais faire comme annonce pour l'instant. Et je vais tout de suite me tourner vers Monsieur Labbé pour parler de l'actualité de l'édition. Mais quant à l'actualité en général, je vais attendre que mon ami Goffman ait rejoint le camp numéro 1 pour en parler, parce que il m'a dit qu'il arriverait un peu plus tard, et donc on dira ce qui se passe de bien et de mal dans l'actualité. Ça, la partie bien, ça va durer moins longtemps que la partie mal.
Voilà, ça va être très rapide.
Donc, la question du catéchisme.
Voilà, donc c'est le dernier numéro de Fidélitaire, de mars, numéro 170, et nous avons voulu rebondir tout simplement sur la parution donc du compendium du catéchisme de l'Église catholique, en proposant une réflexion, une histoire, une réflexion, un éclairage sur la question du catéchisme. Bon, bien sûr, tout le monde le sait, nous sommes tout à fait favorables et attachés au catéchisme traditionnel, et avec comme base le catéchisme du Concile de Trente, mais cela dit, connaître l'histoire, l'historique d'abord du catéchisme. Souvent, comme le premier article commence par une citation. Je vous lis la citation. Le catéchisme, présentation structurée, synthétique et pédagogique de la foi chrétienne à un inventeur bien connu, Martin Luther. Hein, et ça, c'est une citation du père Kubler, des Augustins de l'Assomption, dans la Croix. Et évidemment, c'est totalement faux. Le catéchisme est plus, beaucoup,
si bien largement... Si les assomptionnistes se mettaient à dire la vérité,
voilà,
le monde s'arrêterait branlé sur ses fondements.
Voilà. Donc, c'est tout à fait faux. Donc, on reprend cette histoire pour bien comprendre quand le catéchisme est né dans l'Église, très tôt, évidemment, un exposé synthétique, comment il s'est développé, comment, effectivement, le catéchisme du Concile de Trente répond, alors, à une problématique de l'époque, et notamment, bien sûr,
à tout ce qui est l'impression, enfin donc l'imprimerie, mm-hmm. qui donc fait que les livres se répandent beaucoup plus qu'ils ne le répandaient. Le catéchisme se faisait beaucoup par oral avant, il doit se faire par écrit désormais puisque le livre devient dominant. Et donc toute cette histoire, les catéchismes modernes, les tentatives également. Donc il y a eu le catéchisme romain, donc pour toute l'Église, catéchisme du Concile de Trente, et toutes les tentatives qui ont été faites, qui n'ont pas abouti, d'un catéchisme universel, d'un petit catéchisme universel, et qui n'ont pas abouti. Donc d'abord au Concile Vatican I, ça n'a pas abouti parce que vous savez que le Concile Vatican II, Vatican I a été quelque peu interrompu par une guerre entre les Allemands et les Français, et puis ensuite Saint Pie X également a essayé de promouvoir un catéchisme unique, mais ça n'a pas pris, si je puis dire. Il y a un article de...
Quand on dit un catéchisme unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire un catéchisme œcuménique?
Non, un catéchisme, si vous voulez, le catéchisme romain, le catéchisme du Concile de Trente, est unique pour toute l'Église. C'est le catéchisme pour les prêtres, pour les curés, ad parochos, pour les curés. C'est la base sur laquelle ils doivent enseigner aux fidèles. Mais nous savons que les enfants ne reçoivent pas l'enseignement du catéchisme à partir du catéchisme du Concile de Trente. C'est quand même relativement au-dessus de leur capacité. Donc, depuis toujours, il existe des petits catéchismes. Le catéchisme de Saint-Pie X, petit catéchisme des diocèses de 1947 que vous avez peut-être dû connaître, etc. Ben, tout ce genre.
Question-réponse.
Voilà, question-réponse. Et le problème, c'est que plus ou moins chaque diocèse avait son propre catéchisme. Ce qui marche très bien lorsqu'il n'y avait pas de circulation. Les gens vivaient et mouraient dans le même diocèse parce qu'on circulait peu. Et à partir du 19e siècle, la circulation des hommes commence à s'accélérer. Et on se trouve, et notamment au moment du Concile Vatican I, c'est la question des évêques qui disent « Mais moi, dans mon diocèse, j'ai des enfants qui ont reçu 4 ou 5 catéchismes différents. Et comment je fais ? Parce que les gars disent, dans mon catéchisme, c'est pas comme ça. Alors il était obligé de prévoir des professeurs spécifiques pour chaque toi tu viens de tel diocèse, j'ai un professeur. Donc ça devenait impossible. Donc on a tenté un catéchisme unique. Et effectivement, le catéchisme de 47 que tout le monde a connu, que nous avons réédité à Clovis, est un catéchisme qui est une fusion, avec des qualités et des défauts, d'un certain nombre de catéchismes. Alors, en France, la seule grande, avant 37-47, seule grande tentative, c'est le catéchisme impérial. Donc Napoléon, il a imposé le catéchisme. Bon, ça c'est pas resté parce qu'il y avait la Saint Napoléon, qu'il fallait servir l'empereur, qu'il fallait à l'armée pour l'empereur, etc. Voilà. Donc ça, c'est disons, ça ne soulève pas l'enthousiasme de tous, on va dire. Hein. Vous savez quand est-ce que c'était la Saint Napoléon?
Non, mais moi je suis pas bonapartiste, hein, je suis royaliste légitimiste, mais je suis plutôt monarchiste, c'est-à-dire au sens où il faut quand même un chef. Alors si on nous amenait un Napoléon aujourd'hui, je le prends tout de suite.
Peut-être que c'est mieux que ce qu'on a, ça c'est vrai.
Voilà. C'est pas difficile d'être mieux.
Mais
pire, là, voilà. Pire, c'est difficile quand même.
Mais donc, la Saint-Napoléon, c'était le 15 août.
Voilà, c'est ça.
Ils avaient trouvé un Saint-Napoléon, c'était devenu Saint-Napoléon, moi.
Ouais, non, mais en plus, c'est fondé, puisque vous savez que le 15 août, c'est le seul jour de l'année où le soleil se couche dans l'axe parfait de l'Arc de Triomphe.
Et c'est un rapport avec Napoléon? Ah oui, Napoléon, l'Arc de Triomphe.
Ouais,
voilà, bon.
C'est pas pour vous être désagréable, mais la vérité, c'est ça.
Voilà.
C'est un léger rapport. Parlez-nous des milliers de musulmans massacrés lors des ratonnades des pieds noirs en Algérie. C'est pauvre R, le provocateur de base. Non, on parlera pas de ça, monsieur, parce que c'est pas notre sujet. Et puis en plus, il y a sur les radios libres, il doit y avoir à peu près 845 293 radios qui parlent de ça. Et il y en a qu'une qui n'en parle pas, c'est nous. Et on va continuer, vous voyez. Voilà. Victoria proteste, elle ne vous abandonne pas, elle souffre de son côté avec son bras cassé qui lui fait mal. Ben oui, mais il fallait pas casser votre bras, ma petite Victoria. Alors ces jeunes filles, c'est toutes les mêmes, elles font des expériences, puis après elles se plaignent. Voilà, vous avez voulu faire de la gymnastique, vous êtes cassé le bras. Elle a voulu faire du saut de bouteille de Volvic.
Qui est d'ailleurs ce qui va bientôt être reconnu par les Jeux Olympiques.
Oui, c'est une. Ben justement, elle espérait être sélectionnée pour les prochains Jeux Olympiques. Et...
Non, ça sera.
Non, mais on l'embrasse.
Bien sûr.
Puis elle est tellement cristalline dans sa voix comme dans son dans son squelette, si j'ose dire. Est-ce qu'on peut parler du squelette? Non, c'est presque obsédé.
Bah, disons que parler du squelette d'une jeune femme, c'est peut-être pas vraiment d'un bon goût à toute épreuve.
Son ossature aérienne n'a pas supporté le contact avec la bouteille, avec le pack, parce que quand même, il a fallu un pack d'avant, d'ailleurs, probablement. J'ai appris en écoutant l'émission des artisans qu'Elisabeth Escale, dédicace son livre du commandant Guillaume, samedi à Duquesne Diffusion. Absolument, oui, c'était ça que j'avais oublié. Samedi, Duquesne Diffusion, Elisabeth Escale dédicace le livre du commandant Guillaume. Voilà. Jean Monneret pour son livre sur Oran 1962, ça vous dit quelque chose?
Absolument, oui.
A été reçu à la matinale de Canal Plus jeudi dernier. Voilà. Alors, Elisabeth Escale, donc c'est Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, de 15h à 18h, samedi 18 mars. Voilà. Alors, pardon de vous avoir interrompu pour. Mais comme je lis les messages à mesure qu'ils arrivent, puisque je suis tout seul.
Alors, donc, il y a un petit article de notre ami que vous avez souvent reçu ici, François de Crécy, qui parle évidemment de Venise, d'un.
Allons bon.
Quelle surprise. Donc, d'un religieux de Venise, qui sera peut-être un jour canonisé, et qui a consacré toute sa vie au catéchisme sur Venise, et qui a été, comme il le dit, un serviteur du catéchisme. Donc, c'est un homme récent, puisqu'il est mort en 1962, quelque chose comme ça, donc il est mort vraiment tout à fait récemment. Et puis ça finit, notre dossier sur le catéchisme finit par une présentation de nouveau, et je crois que c'est très important, du catéchisme par correspondance des sœurs de la Fraternité Saint-Pilice, qui est une des œuvres catéchétiques les plus importantes aujourd'hui, puisque c'est un catéchisme par correspondance qui est en français, en allemand, en anglais, et je crois qu'elles sont en train de le mettre en espagnol. Et ce n'est pas elles qui l'ont inventé, c'est une religieuse canadienne qui l'avait créé, canadienne française qui l'avait créé, et qui est dans les supérieurs l'ont dit à abandonner cette vieillerie, mais mettez-le de côté. Elle l'a transmis à la fraternité, les sœurs l'ont retravaillé, refait, et ont près de un millier, je pense, de familles qui toutes les semaines reçoivent donc une leçon de catéchisme, des exemples, et doivent renvoyer, donc l'enfant doit renvoyer, c'est un cours par correspondance, quoi.
On va peut-être leur dire aux sœurs que pour qui j'ai le plus grand respect et la plus grande amitié, qu'il y a un truc maintenant qui s'appelle Internet qui marche pas mal. Hein.
Voilà, alors c'est vrai que c'est Internet, mais est-ce qu'il y aurait cet échange, parce qu'il y a vraiment un échange, on envoie des petites choses, on envoie des images.
Nous avons sur Internet quelque chose qui s'appelle un courriel,
voilà,
qui marche bien aussi.
Voilà. Bon, ben on va leur transmettre.
Non, mais c'est vrai, parce que au fond, j'étais en train de, quand vous disiez, vous parliez du catéchisme par correspondance, j'essayais de fouiller dans mon esprit confus, et j'ai pas le souvenir qu'il existe un site de catéchisme traditionnel sur la toile.
Non, je vais vous dire, c'est si j'avais le temps, c'est une chose que j'aimerais faire. Voyez.
Ouais, vous travaillez que le dimanche, il vous reste
voilà, tout le reste
six jours par semaine.
Voilà,
enfin,
c'est une chose qui serait fort intéressante, effectivement, à la fois, et répondre un peu systématiquement à des questions d'auditeurs, enfin des questions d'internautes, en se donnant une semaine, hein, parce qu'il faut quand même faire une réponse pas dans l'instant, il faut aller consulter, mais pour répondre à des questions d'actualité, enfin des questions d'actualité, disons, en fonction de problèmes qui se posent. Non, ça serait fort intéressant.
Est-ce que je peux vous poser une question absolument stupide, mais je me la pose à moi-même et j'ai pas la réponse. Le catéchisme, c'est quelque chose de catholique, ou est-ce qu'il y a un catéchisme protestant, un catéchisme orthodoxe?
Alors, il y a un catéchisme protestant, puisque Luther a fait un grand et un petit catéchisme, donc ça, ils ont un catéchisme. Mais je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Orthodoxe, ça existe, mais si vous voulez, ils n'ont pas la transmission de la foi comme la nôtre. Eux, beaucoup par la liturgie est fondamentale, la vie familiale, des contacts plus spirituels avec un père spirituel, etc. Je ne connais pas parfaitement, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient quelque chose de tout à fait analogue au catéchisme très systématique qui est je pense, relativement le... Alors, vous avez quelque chose dans le genre qui ressemble, c'est évidemment dans l'islam, vous avez des écoles, alors là, où on apprend le
Courant par cœur, etc. Je parle de religion, là. Voilà, je posais la question sur des religions sérieuses, voilà. Pas sur les religions rigolotes.
Voilà, c'est ça.
Les religions rigolotes, j'imagine qu'ils ont dû inventer des tas de trucs marrants,
voilà,
mais
voilà, ça
m'intéresse moyennement. Vous parliez du catéchisme par le rite ou par la liturgie. Lundi, on est allé aux funérailles d'une amie qui est morte dans l'orthodoxie. On est allé à rue d'Aru, dans la crypte. Et elle était la seule de sa bande, si j'ose dire, à être pratiquante orthodoxe. Donc la crypte était une quarantaine de personnes qui étaient ou des pratiquants ou pas, mais des catholiques de formation ou de pratique ou bon. Et ce qui était stupéfiant, c'était de voir à quel point la liturgie, la panikide, qui est extrêmement prenante, poignante et simple, a transporté ces gens-là. Et là, on comprenait vraiment à quel point la liturgie moderne du catholicisme a été, enfin le Vatican II a été quelque chose de ravageur, parce que là on est au niveau le plus simple, au degré le plus simple de la participation par le cœur.
Oui,
la liturgie.
Puis je dirais, tous les symboles sont d'une telle richesse, ils sont fondés sur la nature humaine, donc ils sont compris au moins pénétrés par l'intelligence, et pas seulement l'intelligence spéculative, l'intelligence sensible, etc., de l'homme. Et donc, ça dit des choses.
Ce qui était stupéfiant, c'était de voir ces gens, que je pense que les trois quarts ne vont jamais à la messe, ou une fois par an, ou quand il y a un mariage, ou bon. Là, ils étaient venus, c'est pas leur culte, ce sont des catholiques, oui, disons. Et ils sont restés une heure, debout, dans la crypte, absolument sans un bruit, sans bouger, complètement fascinés par simplement les chants et par la liturgie très très simple, en plus en slavon. On peut pas dire qu'ils ont été distraits par les propos qui étaient tenus par le célébrant. Et on se dit, mais comment le... Ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais comment les princes de l'Église catholique ont pu laisser échapper un trésor pareil?
Ça, c'est un des grands mystères de l'après-concile, et de Paul VI en particulier, qui, a priori, aimait la liturgie, puisqu'il faisait ses retraites chez les bénédictins. Comment, pourquoi? Moi, une de mes hypothèses, c'est que c'était un démocrate et donc qui maîtrisait le peuple. Vous voyez?
Je ne sais pas si on a le droit de dire ça du pape, quand même.
Non, mais de formation, si vous voulez.
Ah, oui.
C'était quand même le fils d'un responsable des démocrates chrétiens, italien.
C'est dégoûtant, ça.
Et donc, je pense qu'il méprisait le peuple. Et donc, pour lui, il voulait une belle liturgie, il allait chez les bénédictins, voir des belles choses du grégorien. Mais pour le peuple, il fallait des choses.
Il ne va pas bien à quoi.
Voilà. Ouais. Bah, bon, c'est une hypothèse, il faudrait
ce n'est pas suffisamment méchante pour moi.
Voilà.
Alors, un auditeur nous signale que ce soir, La Passion de Mel Gibson sera diffusée sur Canal+. Il y a un journal de télévision qui qualifie ce film de pompeux, redondant, récit biblique complaisant et accablant de maladresse. Il y aura ensuite un débat autour du film qui a ébranlé Hollywood. Et l'auditeur dit, on se demande bien pourquoi. J'ai une petite idée, mais je peux pas vous la dire à la radio parce qu'on aurait des ennuis. Voilà. Dimanche 19 mars à 15h, en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, une messe sera dite pour le repos de l'âme des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. 15h, 19 mars. C'est le même jour que...
Le 19 mars, je m'étonne qu'il y ait une messe le 19 mars, à part organisée par la FNACA. Je suis en train de me demander, monsieur de Beckel, si vous n'êtes pas en train d'annoncer une messe organisée par la FNACA. Tout à fait, innocemment.
Ah ben, c'est pas une messe, alors à ce moment-là, c'est une manif coco.
Parce que le 19 mars, il n'y a que pour célébrer une messe.
Eh ben oui, évidemment, parce que je suis bête, mais je le lis, moi, vous voyez. C'est ça, quand on n'a pas la censure de Victoria, on lit n'importe quoi, je lis les messages quand ils arrivent. Vous devriez éviter de parler du regretté chancelier, pourquoi? Tout le monde en parle, pourquoi j'aurais pas le droit d'en parler, moi? Tous les prétendants sont effectivement capétiens, pourquoi cette querelle entre Bourbon et Orléans? Oh ben, un jour on fera une émission de 8 mois et on essaiera d'expliquer ça. Le film de Mel Gibson passe sur Canal+, c'est déjà dit. Les socialistes essaient de faire pire actuellement, c'est difficile, mais ils y arriveront. Je continue à lire. Comme ça arrive, je récuse toute responsabilité si je dis quelque chose de pas bien. Pouvez-vous conseiller aux porteurs de valises qui téléphonent et dont vous avez lu le message de lire « Aspect véritable de la rébellion algérienne, Algérie médicale 1957 », préfacé par Jean-Pierre Rondeau? réédité chez Dualfa. Si le désinformateur ne lit pas, à la condition qu'il sache lire encore, le malheureux, il verra des photos de musulmans. Oui, effectivement. Ça, c'est vrai que c'est un bouquin définitif, le bouquin Aspect véritable de la religion.
Oui, il est sorti en 1958.
Oui, il a été réédité plusieurs. Mais c'est vrai que Randa vient, enfin, l'a réédité il n'y a pas longtemps.
Oui, je sais bien, c'est un excellent
ouvrage.
Et
ça montre le caractère, comment dirais-je, bienveillant de la guerre de libération
nationale.
Non, en fait, je disais simplement qu'il avait été édité en 58, c'était pour montrer.
Avant.
Oui, c'était pour simplement souligner que il avait été en fait édité par le gouvernement.
C'est
pour ça que c'est
en à fait, l'époque c'est une... où il y avait un gouvernement en France.
Voilà. C'est pour ça en fait c'est une pièce vraiment officielle. Mm. On peut pas dire bon ben la personne invente, non, la personne réédite quelque chose et elle a bien fait d'ailleurs, mais au départ c'est une pièce officielle. Mm. C'est édité par le gouvernement en 1958. Donc bon voilà, je vous laisse en tirer les conclusions.
Alors vous avez repris un stock d'un livre qui était menacé de disparition et de pilonnage, qui s'appelle Un crime sans assassin, Alger, 26 mars 1962, qui est un gros et grand bel album avec des beaucoup de photos et qui est absolument déchirant parce que ce sont les photos de la fameuse fusillade, enfin la fameuse tragique, horrible fusillade, et avec des témoignages, tout, c'est un bouquin très très complet. Il vous en reste quelques-uns parce que vous avez...
Oui, c'est vrai. J'ai racheté le stock il y a à peu près presque un an maintenant.
Et c'était Confrère Casti qui avait dit tout ça.
Confrère Casti, oui, absolument. Et c'est une ligne de Francine de Seine et Marie Jeanneret qui recueille tous les témoignages, tous les témoignages, des témoignages de civils, de militaires, de personnel hospitalier, donc médecins, brancardiers, aussi de pompiers. En fait, c'est un très gros ouvrage. Et
ouais, il est impressionnant, hein. Très impressionnant.
Il a, je crois, 600 pages.
Avec une photo du maudit.
Oui, c'est vrai que...
Ah non, mais il faut passer sa photo parce qu'on comprend. On voit bien que c'est un personnage sorti, comme dit François Plantet, d'une toile de Jérôme Bosch. C'est un démon vomi par l'enfer, c'est évident, il suffit de le regarder, avec sa bedaine, son pif et tout. Bon, bref, on va devenir désagréable. Revenons à l'abbé Cellier. Que faut-il penser du libéralisme économique mondialisé? Nous demande un auditeur qui ne craint pas, une auditrice qui ne craint pas d'engager des sujets. Est-ce qu'il faut penser quelque chose du libéralisme économique mondialisé?
En moins d'une minute, répondre à
vous
cette
avez
question,
4 secondes.
C'est un petit peu difficile, hein. Je crois que malheureusement, pour abréger, c'est quand même souvent la loi de la jungle. Je suis pas sûr que la loi de la jungle est ce que le créateur a voulu pour l'homme, au moins au départ.
On peut en discuter parce que le créateur, je pense que ce qu'il a voulu, c'est que l'homme se démerde, si j'ose dire.
Oui, mais pas forcément.
De mon propos.
Il y a une loi, les 10 commandements, qui le guide. Et ensuite, bien entendu, il doit faire usage de sa raison pour user des choses. Est-ce que ça, savoir s'il veut mettre le toit de sa maison au-dessus ou en dessous, savoir s'il veut mettre les fenêtres en bas et les portes en haut. Bon, user de sa raison pour les choses les plus raisonnables. L'homme n'est pas un automate. Il n'a pas, le bon Dieu n'a pas dit tout ce qu'il doit faire. Il a dit voilà les règles de fonctionnement et maintenant faites usage sain et normal de votre raison. Malheureusement, les hommes ne respectent pas et font un usage complètement tordu de leur raison. C'est ça le problème.
Je vais vous proposer une idée qui me trotte depuis longtemps dans la tête. Vous allez me dire si elle est carrément hérétique ou simplement schismatique aussi. Le décalogue, il est au futur. Donc c'est pas quelque chose que tu aimeras. Tu n'aimeras qu'un seul Dieu. Tu aimeras ton père et ta mère, etc., etc. Bon, ça veut dire, c'est pas l'impératif. C'est pas n'aime qu'un Dieu, aime et respecte tes parents, ne vole pas ton voisin, ne convoite pas sa femme. Tout c'est, tu feras ça. Alors il manque la phrase qui précédait. Quand tu seras devenu une créature conforme à mon plan, à moi, Dieu. Alors quand je me mets à la place du bon Dieu là pour parler, c'est pas moi qui parle. Quand tu seras, voilà ce que tu feras. Pour l'instant, tu fais que des conneries. Mais quand tu seras prêt, voilà ce que tu feras. Donc c'est plus une prophétie qu'une direction. Je vais en enfer tout de suite ou
Non, on peut avoir un petit temps de latence.
Le problème, c'est que les règles de grammaire et le futur, etc., n'existaient certainement pas dans la langue écrite qui a été gravée sur les plaques de la loi.
Bah, pourquoi, mon Dieu, ils ne pouvaient pas inventer la grammaire, je suis absolument certain.
Non, mais
ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été écrit dans une langue avec une grammaire.
Avec une certaine grammaire, mais
je pense que Dieu devait parler un français correct.
Voilà.
Même quand il parlait hébreu.
À mon avis, c'est même pas de l'hébreu. Hein. On est bien avant. Mais peut-être même une langue sans alphabet.
Voilà. C'est compliqué.
Mais effectivement, le bon Dieu est pas là avec un fusil. Hein. C'est comme ça que ça doit fonctionner, ouais, parce que lui, il est le créateur. Hein. C'est comme le fabricant de la voiture. Il vous met un fascicule de fonctionnement. Il vous dit, vous faites ce que vous voulez avec la voiture. Mais si vous suivez mes règles, votre voiture marchera. Si vous les suivez pas, votre voiture tombera en panne. Maintenant, si elle tombe en panne, venez pas vous plaindre.
Ça monte dans la voiture. Tu tourneras. Mais d'abord, il faut monter dans la voiture. Voilà. Tu tourneras la clé dans le démarreur, tu enfonceras l'embrayage, tu passeras la première, tu lèveras le pied de l'embrayage en accélérant lentement, et s'il y a un mur devant toi, tu tourneras très légèrement le volant, parce que autrement cette affaire va mal se terminer.
Voilà.
Ben c'est ça.
Et les hommes se disent, mais comment ça se fait que ça marche pas? Ben ça marche pas parce qu'ils suivent pas le mode d'emploi.
Ils essayent de toucher tous les boutons.
Voilà, en disant c'est rigolo, etc.
Ça, voilà. Alors donc, pour en revenir à ça, que faut-il penser du libéralisme économique mondialisé? Je pense que le décalogue n'a pas prévu ça. On a dit simplement aux gens, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et donc il faut simplement appliquer ça à la vie quotidienne, et ça doit fonctionner. Mais il n'a pas dit...
Mais je pense que l'enfer doit être très libéral et très mondialisé.
Oui, vous êtes très très occupé en plus. Ouais. Parce que je ne sais pas si cette remarque est fondée, la remarque de l'auditrice, mais elle dit, j'ai écouté le journal des économistes de ce midi, et même écouté deux fois d'ailleurs, parce que j'étais en automobile à pétrole, trois des quatre intervenants qui défendaient la précarisation du privé étaient des fonctionnaires. Alors si c'est vrai, surtout que c'était des gens qui disaient que vraiment, il faut que les gens se débrouillent, quoi, hein. Avec une phrase que j'ai trouvée très rigolote, ils ont dit on est avec les règles que les Français veulent appliquer à l'emploi, on revient au 19e siècle. Et c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire, les Français, qu'est-ce qu'ils veulent être fonctionnaires? Au 19e siècle, il n'y avait pas de fonctionnaires, il y en avait très peu. Donc, on voudrait maintenant une société marxiste, et pas du tout une société de fonctionnaires. Et dans le désordre confusionnel qui règne aujourd'hui, j'ai entendu hier quelque chose d'absolument superbe. C'était, ce matin, je sais plus. C'est monsieur Dupont-Aignan, qui est pas la moitié d'un imbécile, qui était invité sur Europe numéro 1. Et il a dit une chose, il a dit, vous savez, à propos du PCE, CPE, contrat provisoirement, je sais pas quoi, enfin bref, le fameux truc qui met tout le monde dans la rue, tous ceux qui n'ont rien à foutre, c'est-à-dire les fonctionnaires et les étudiants et les lycéens. Alors, il a expliqué qu'il fallait comprendre, il fallait écouter la rue, et surtout tenir compte du verdict des urnes. Alors moi, je croyais qu'ils étaient au pouvoir, appelés au pouvoir par les urnes, les gens qui sont dans la majorité aujourd'hui. Non, apparemment, c'est pas l'opinion de monsieur Dupont-Aignan. Et alors, il a dit, car il faut savoir que, en France, tous ceux qui n'ont pas tenu compte, tous les pouvoirs qui n'ont pas tenu compte du verdict des urnes, de Mac Mahon à Louis XVI, ont été balayés.
Et réciproquement.
Et réciproquement, j'allais dire. Donc je signale à M. Dupont-Aignan que quand même, Louis XVI n'avait pas été précisément porté au pouvoir par le verdict des urnes.
Et que jusqu'à preuve du contraire, il a précédé Mac Mahon.
Oui, mais ça, bon, on pouvait penser à une espèce d'inversion, ce qui est bien normal de la part de M. Dupont-Aignan, penser qu'il a été viré, enfin que Louis XVI n'a pas tenu compte du verdict des urnes, j'ai trouvé que c'était pittoresque comme pensée, voilà. Je continue la lecture des questions, sauf si ça ennuie quelqu'un. Et d'ailleurs, même si ça ennuie quelqu'un, je continue. Comme la soupe au cochon aura lieu, sauf empêchement de dernière minute, à la gare de l'Est, demain jeudi à 20h, avenue de Verdun. Ah, si vous voulez, c'est près de chez moi, tiens, j'irai peut-être. Si vous voulez manger du cochon le vendredi, un vendredi de carême, c'est le moment où jamais.
Demain, c'est un jeudi.
Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, je me disais aussi. La messe du jour du Seigneur dimanche dernier à la télévision était une vraie séance de cirque. Vous l'avez vu? Non, vous êtes aussi
disons, pour disons la dimanche matin. Le dimanche à l'heure du jour du Seigneur, je dis la messe pour les paroissiens.
Ah bon, c'est une faiblesse de ma part. Que pensez-vous de Patrick de Bourson, qui paraît-il est un grand ami de Jean-Marie Le Pen? Il vient de faire un bouquin, je sais, mais je ne le connais pas. Vous le connaissez? Non, voilà. C'est ce que je peux dire. Il existe un catéchisme orthodoxe reprenant l'essentiel des enseignements des sept premiers consuls œcuméniques. Un auditeur nous dit « Les ambitions planétariennes d'Hervé Ryssen donnent toutes les clés pour comprendre la démolition de notre pays. Pouvez-vous parler de ce livre ?» Oui, je crois que j'étais un des premiers à en parler d'ailleurs. Dans mon journal, au moins, et à la radio aussi. C'est un très très bon livre qu'il faut lire. Effectivement, l'Église orthodoxe a édité un catéchisme dans les années 50. On peut le trouver à la procure. Citation de La vie d'Henri Brûlard par Stendhal. « Bien que n'étant pas pratiquant, le spectacle de la messe m'inspirait de la gravité. »
Nous diffusons au catalogue Covis un livre très intéressant par quelqu'un qui a été béatifié, quelqu'un d'Europe de l'Est, je ne sais plus d'où, qui a fait une thèse sur la liturgie dans la littérature française au 19e siècle. C'est très intéressant de voir justement comment ces auteurs, tous ceux qu'on croit anticléricaux, agnostiques, athées, etc., comment ils étaient quand même marqués par cette liturgie catholique et comment ils en parlent à tel ou tel moment.
C'est pas du tout l'avis de M. Chirac qui dit que le catholicisme n'a absolument aucune participation aux fondements culturels et patrimoniaux, au patrimoine culturel de notre Europe.
Non, mais il suffit de se promener en France pour s'apercevoir que
ça n'a aucune importance. Ni cathédrale, ni chapelle, ni calvaire, ni rien du tout. Tout ça, c'est une pure invention des curés. Félicitations à l'abbé Cellier pour sa revue fidélitaire. Qu'est-ce qu'on dit? Merci maman, non?
Non, je pense pas.
C'est un vieux gag. Hein, c'est... Pourquoi ne pas faire une émission sur les révélations privées?
Ça, c'est chaud comme. C'est chaud comme. Mais moi, je peux y venir, mais bon, je serais pas très favorable, voilà.
Ah bon?
Et je rappellerai la théologie catholique.
Ça n'est pas de foi, évidemment pas.
Non.
Voilà. Tant que ça n'a pas été estampillé par.
Même quand c'est estampillé, c'est pas de foi.
C'est pas de foi. Oui, bien sûr, mais tant que c'est pas estampillé, il vaut mieux se tenir à l'écart.
Voilà. Mais...
Comment recevoir le numéro sur l'histoire du catéchisme? Et y est-il indiqué que la manière de suivre le caté par correspondance? Oui, y est-il indiqué la manière, pardon, de suivre le caté par correspondance?
Alors, je réponds aux deux questions. Première question, bien sûr, on peut commander ce numéro aux éditions Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes Cedex. Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes Cedex. Et on peut donc téléphoner pour demander ce numéro. C'est le numéro de téléphone 01 69 78 30 23. 01 69 78 30 23. Le numéro est donc à 7,50 € et l'abonnement à 33 € pour l'année. C'est un bimestriel, 6 numéros par an. Et bien sûr, si la personne est parisienne ou de la région parisienne, elle peut venir l'acheter à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement, ou à la librairie du Ken. Et en ce qui concerne le catéchisme par correspondance, c'est un catéchisme qui n'est pas purement et simplement un bouquin dès qu'il est coupé en morceaux. Il y a une leçon par semaine qui est prévue par les sœurs pour l'enfant, avec des choses à apprendre, des choses à faire dans sa semaine, des dessins, des choses, etc. Il renvoie, son devoir est corrigé, etc. C'est donc
vraiment
un cours,
sérieux,
c'est un cours par correspondance. Hein, il faut bien le comprendre.
Alors là, Patrice Serre, vous allez être fouetté avec des verges trempées dans le vinaigre, parce que le docteur Planté, qui était hébraïsant, nous dit « Selon la tradition rabbinique la plus ancienne, les tables de la loi étaient rédigées en hébreu. Il y a en hébreu un futur qui s'appelle l'inaccompli ou atid. » Et on ne rit pas quand je cite le docteur Planté, autrement on se fait battre doublement.
Avec des orties.
Avec des orties, trempées dans l'acide sulfurique concentré bouillant. Tous les gauchos qui sont dans les rues, que font-ils en France? Pourquoi ne vont-ils pas en Corée du Nord ou à Cuba? Ah, moi, j'ai une bonne idée, ça. Pour Monsieur Dupont-Aignan, ne lorgne-t-il pas sur, sur le vote de ces gens-là? Je ne sais pas. C'est vraisemblable. Au sujet du CPE, ça veut dire conseiller principal d'éducation, c'est normal que les lycéens ne l'aiment pas.
C'était ce qu'on appelait autrefois le surveillant général, le CPE actuel. Conseiller principal d'éducation, c'est ce qu'on appelait le surgé.
Le surgé?
Voilà, c'est le même.
Moi, à l'école militaire, j'avais un surgé qui s'appelait Monsieur Cuculou. C'était pas facile pour lui tous les jours. Hein. Dans l'émission de midi, les trois fonctionnaires ont dit que, c'est pas monsieur d'ailleurs, c'est l'adjudant Cuculou, ont dit que pour être enseignant à l'université, il faut être fonctionnaire. Voilà. Comment se procurer le dernier numéro concernant le catéchisme? On a répondu. À propos de l'Algérie, il serait intéressant de consacrer une émission à l'aspect économique et financier du coût de notre colonisation de ce pays. Ça avait été fait, ça a déjà été fait. Lugan, d'ailleurs, à Lyon 3, a évoqué une étude universitaire démontrant que les produits agricoles et industriels produits en Algérie coûtaient bien plus cher que les mêmes produits en métropole. Exact. L'ouvrage repris pour stigmatiser le terrorisme du FLN en Algérie est la réédition d'un numéro spécial d'Algérie médicale, édité par des médecins et chirurgiens de la faculté d'Alger, cette édition étant tout à fait indépendante d'une intervention politique extérieure. Elle éclaire la position du corps médical en toute objectivité, nous dit le docteur Julien. Le cimetière Mamin de Mersel-Kébir a été profané, les croix cassées, les tombes ouvertes. Mais naturellement, si vous attendez la moindre information sur ce sujet de la part des radios et télévisions collaboratrices, vous perdez votre temps. Il existe un site internet d'enseignants de l'Église catholique qui fait état de toutes les encycliques, de tous les papes, de toutes les apparitions de la Vierge Marie, de tous les écrits des docteurs de l'Église catholique, Sainte Faustine, Sainte Catherine de Gênes, de Sienne. Ah non, de Gênes aussi. Sainte Thérèse de Lisieux, etc. Ce site est jésusmarie-en-un-seul-mot.com.
Je précise quand même que ce site comporte une assez violente attaque de la Fraternité Saint-Pilice. Donc, contre la Fraternité Saint-Pilice.
C'est très mal. Je désapprouve absolument. On parle deux minutes de votre catalogue, les nouveautés.
Voilà, les nouveautés. Donc, la dernière nouveauté, c'est Saint-Vincent de Paul, Une pensée par jour. Donc nous avions déjà fait un livre de Saint-François de Sales, Une pensée par jour, et là nous rééditons par un ami de Saint-François de Sales, puisque Saint-François de Sales lui a transmis les visitandines au moment de sa mort, enfin, la responsabilité visitandine, et donc c'est une petite pensée, chaque jour, c'est pas long. Comme ça, on peut, le matin, en se levant, avant de prendre son café, on se prend la pensée, puis le café, et on part bien lesté pour la journée.
Ça, je connais vos trucs. Ça, c'est après, on est mal à l'aise toute la journée, parce qu'on se dit, chaque fois qu'on a envie de faire un petit péché, on se dit, oh, je peux pas.
Non, vous voyez, par exemple, ça, voilà, c'est la pensée du 17 mai, ouais. Pour monsieur de Bekech. Il ne faut quelquefois qu'un mot charitable pour convertir un cœur endurci, de même aussi qu'une seule parole dure est capable de désoler une âme, de la pénétrer d'une douleur amère qui peut lui être très nuisible.
Voilà, alors ça y est. Voilà.
Donc on s'est démoralisé pour la journée.
Cassé en deux. Voilà. En mille morceaux.
Prenons nous sommes le 15, prenons la pensée d'aujourd'hui, Saint Clément Marie, confesseur. Le supérieur ne doit pas paraître supérieur et maître. Rien n'est plus faux que ce qu'on dit, que pour bien gouverner et maintenir son autorité, il faut faire connaître qu'on est supérieur. Jésus-Christ nous a enseigné le contraire par ses discours et par ses exemples.
Voilà, c'est encore une fois mouché. Je parlais du regretté chancelier tout à l'heure, ben voilà la réponse donnée quand même par Saint-Vincent de Paul,
qui est quand même un grand saint et aussi un grand saint français.
Grand saint français. Quel beau personnage.
Voilà, plein d'humour, une très belle langue enracinée vraiment dans la culture française paysanne.
Quelle vie.
Voilà, et c'est quand même un homme.
C'est ma paroisse en plus.
Voilà. Bon, alors il faut absolument le lire chaque matin avant le café. Donc je rappelle. C'est un très beau livre, c'est un très beau
petit livre. Merci, monsieur Lavey. Voilà. Il me l'a donné. Pourtant, il n'est pas très donneur, mais là.
Voilà. Là, pour Saint-Vincent de Paul. Donc je rappelle. Un soupçon d'imprévu, un livre qui est paru d'un certain temps, mais qui vient de recevoir le prix Renaissance. Donc
Gabriel Cluzel, elle avait déjà fait un recueil de nouvelles chez vous.
Voilà, c'est le deuxième recueil de nouvelles.
Qu'est-ce qui vous arrive? Ah bah oui, il extrait.
Je sors. Donc le premier, rien de grave.
Rien de grave. Hein,
voilà. Et le deuxième,
c'était,
insoupçon.
C'était drôle, c'était
voilà.
Charmant. Hein.
Et de, le deuxième, un soupçon imprévu, qui vient de recevoir le prix Renaissance. Et également, je rappelle que les éditions Clovis, enfin à travers un de leurs auteurs, ont reçu le prix des Petits Princes, fondé plus ou moins par Monsieur de Bekech.
Oh non, non. Enfin, pas par moi. Anne Brassier, Marie-Claude Monchot,
etc. Enfin, vous moi, êtes le grand patron qui survolait, qui volait au-dessus de tout ça.
Non, je suis très...
Et donc c'est notre auteur Jean-Luc Chérier pour Petit Ange. Une collection. Ah, Jean-Luc Chérier nous a été envoyé par l'intermédiaire de Monsieur de Bekech. Et donc c'est pour la collection Petit Ange qu'il a reçu le prix des Petits Princes.
Le Petit Ange, c'est vraiment mon truc. Ça fait partie de mes livres de chevet, voilà. Les aventures de Petit Ange. Petit Ange se lave les mains. Voilà. Alors on voit un petit ange qui se lève, il va, c'est écrit en gros avec des beaux dessins et tout, c'est voilà. Super. C'est intellectuellement, ça me va.
Ouais, et en plus, c'est facile parce que c'est déjà dessiné. On n'a même pas besoin de le colorier.
Voilà.
Et je rappelle également le livre d'Yves Chiron sur l'abbé Barbier. Donc un livre sur un grand auteur anti-libéral et qui est non seulement donc une biographie de l'abbé Barbier, une bibliographie de l'abbé Barbier, ce qui n'avait jamais été tenté, c'est fort intéressant parce qu'une bibliographie c'est toujours assez compliqué pour savoir quelles œuvres exactement a fait l'auteur, à quel moment, etc. Et c'est enrichi, et c'est ça qui est intéressant, de souvenirs d'un homme qui a été l'élève de Barbier, puisque Barbier avant d'être un auteur libéral a été anti-libéral, excusez-moi, anti-libéral, a été un grand éducateur jésuite. Il a été notamment le fondateur du lycée jésuite Franklin à Paris, que tout le monde connaît, et il a travaillé à la rue des Postes, etc. Donc, et qui rapporte ses souvenirs de son maître près de 25 ans après sa mort. Maurice Brio est un ancien combattant de 14 qui a laissé des souvenirs sur 14 très intéressants, très très intéressants. Et là, ce sont ses souvenirs sur son ancien maître qui a été donc l'abbé Barbier a été le maître du, notamment du maréchal de Lattre de Tassigny.
Comment vous choisissez les manuscrits, les bouquins que vous publiez?
Alors, je vais vous dire tout simplement, moi-même, je suis un petit peu personnellement un spécialiste de Barbier. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup de livres. Et c'est Yves Chiron qui m'a envoyé sa bibliographie en me demandant, monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez vérifier avec les éditions que vous possédez si c'est à peu près complet, etc. Donc, j'ai effectivement fait ce travail il l'avait envoyé à plusieurs personnes qui étaient susceptibles de lui donner réponse. Mais je lui ai dit, écoutez, je vois que vous êtes en train de faire quelque chose sur Barbier. Moi, ça m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse. Donc, si vous êtes partant, je... Lui, il voulait... Vous savez, il a une toute petite maison d'édition, Yves Chiron. Il voulait le publier, sa petite maison d'édition, mais je lui ai proposé. Donc là, c'est un... Je dirais, c'est un concours de circonstances.
Et l'objectif, c'est quoi? C'est le formateur, didactique
Voilà, c'est un livre d'histoire sur un grand auteur. C'est un grand auteur qu'il faut redécouvrir parce qu'il éclaire beaucoup de la situation actuelle.
Qu'est-ce que vous pensez de la réédition du bouquin de l'abbé Baruel?
Ah ben, je pense que l'abbé Baruel fait partie de l'état de la question sur la Révolution française. Je suis en train de lire un gros livre sur le pape Pie VI et la Révolution française. Mmh. C'est fort intéressant, bon, c'est assez mal écrit, mais enfin, c'est un historien qui a consacré 15 ans à ça, je pense peut-être à un ecclésiastique. Et il montre que à Rome, à l'époque, on a certainement lu Baruel, mais on l'a lu au milieu d'autres choses. On lisait Burke, on lisait etc. Donc ça fait partie de l'état de la question. Vous avez un article fort intéressant de Michel Toda dans le dernier numéro de la Nef. Je suis pas un soutien inconditionnel de la Nef, mais enfin il y a des articles qui peuvent être intéressants et qui montrent, enfin qui fait une approche un peu dialectique entre Baruel, l'explication par la maçonnerie principalement, voilà, et évidemment Augustin Cochin qui essaye lui de trouver les mécanismes sociologiques qui ont abouti à la Révolution. Et je crois qu'il faut marier les deux. Il faut articuler une et que Cochin lui-même, qui je crois n'aimait pas Baruel, mais néanmoins se poser la question, quelle est la place de la franc-maçonnerie au cœur de la Révolution?
Moi, je crois que ce que décrit Cochin, c'est un terrain, et ce que décrit Baruel, c'est le travail des cultivateurs qui vont travailler ce terrain. Il y avait un terrain qui était fertile pour ce à quoi visaient les maçons, et ils l'ont bêché, donc ils l'ont préparé, et après ils ont semé dessus, et puis ça a donné le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que les deux explications sont complètement, totalement complémentaires. pas du tout contradictoire.
Alors, ce qui est intéressant dans cette nouvelle réédition, donc il y a eu une préface qui a été complétée par Christian Lagrave, mais surtout, il y a un index complet des noms.
C'est
très précieux.
Ça, c'est un beau travail qu'a fait Duquesne, les éditions...
De Chiré, donc.
De Chiré.
Non, mais je crois que c'est Christian Lagrave qui a fait ça. Et ça, c'est un instrument très précieux.
Et voilà le Goffman qui fait son entrée, splendide et frigorifié apparemment.
Je vous dis tout de suite que déchirer pour un éditeur, c'est merveilleux comme nom.
C'est du beurre. Qui est
voilà, le beurre.
Merci Monsieur l'Abbé. Rappelez-nous s'il vous plaît l'adresse à laquelle on peut s'adresser.
On peut commander tout ça. Donc Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes. Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes. Téléphone 01 69 78 30 23, 01 69 78 30 23, et la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont dans le 5e. Donc je rappelle le numéro de mars 170 de fidélité à la question du catéchisme. Une pensée par jour de Saint-Vincent-Paul, un soupçon d'un prévôt par Gabriel Cluzel, et l'abbé Emmanuel Barbier par Yves Chiron et Maurice Briot.
Merci beaucoup. Eh bien, au mois prochain, puisque vous viendrez encore parler du prochain numéro de Fidélité, j'en suis sûr.
Voilà, c'est un bimestriel, c'est dans 2 mois.
Oui, dans 2 mois, mais enfin, vous prendrez un mois d'avance, peut-être.
Non mais je suis invité à une émission d'Amish, le mercredi saint, Forum des Revues, pour s'étriper sur Benoît XVI.
Bon, ben alors, je vous abandonne ce plaisir, moi, je me retirerai de l'objet du travail ce jour-là. Merci beaucoup. Madame Ferrandis. Vous venez tous les ans avec une fidélité touchante, une loyauté au passé qui force l'admiration, nous parler de cette journée emblématique et tragique du 26 mars 1962, où des militaires, je ne dirais pas des soldats, des militaires ont tiré sur une foule au cœur d'Alger, une foule qui manifestait sa passion patriotique. C'est une date qui vous touche d'autant plus que vous avez perdu une sœur dans cette tragédie devant la poste de la rue d'Isly. Et comme tous les ans, vous allez faire le 19 mars. Je vois absolument que ça soit le 19. C'est curieux, cet homme. C'est vraiment, les communistes nous pourrissent la cervelle. Il n'y a rien à faire. Hein. Le dimanche.
Non. Le dimanche, on peut pas célébrer
le
mètre pour
samedi,
les morts.
25 mars.
Donc ça sera le 24, parce que 24. Le samedi, c'est l'Annonciation. Monsieur l'abbé pourra nous dire qu'on ne peut pas faire une messe pour les morts le 25 mars, parce que c'est le jour de l'Annonciation. C'est pour ça que nous la faisons le 24 mars.
Alors, le 24, je vais arrêter de dire des bêtises. Donc c'est le 24 mars à 18h30
à Saint-Nicolas, bien sûr.
Notre-Dame d'Afrique.
Oui, vous parliez de fidélité. C'est moi qui vous remercie, Monsieur de Beckett, parce que vous êtes fidèle. Parce que chaque année, justement, vous m'invitez et j'ai l'occasion là de parler de nos morts. Parce que, eh bien, si vous ne m'invitiez pas, ben je ne sais pas où je pourrais en parler. Très honnêtement, sur mon site, oui.
Et vous n'appartenez à aucune minorité stridente.
Oui, c'est vrai.
C'est ça, vous comprenez. C'est le problème, c'est ça. C'est que vous n'avez pas de relais médiatique pour. Expliquer. Alors, ce qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est que on vous dit, mais attendez, mais il y a 40 ans. Alors, il y a 40 ans, donc ça fait trop longtemps qu'on en parle, c'est ça en gros. Mais moi, je connais d'autres événements qui se sont déroulés il y a plus de 40 ans, dont on continue à nous parler.
Et en fait, c'était pour les 40 ans, c'est en 2002, il y a eu tout d'un coup les caméras qui se sont portées sur notre association. Ça a été tout à fait inattendu, un peu grâce aussi au site de l'association. Mais en fait, depuis, plus rien. On n'arrive pas du tout à faire connaître ce qui s'est passé le 26 mars. On n'arrive pas à en parler. Les médias sont absolument absents. Vous avez beau leur envoyer un message en disant que c'est la date anniversaire de la fusillade de Larry Disley, vous pouvez même essayer de faire le parallèle pour essayer de les interpeller avec le Dimanche Sanglant. Je dis Dimanche Sanglant puisque nous sommes
Bloody
sur une...
Sunday,
je voulais pas dire en anglais parce que nous sommes sur une radio, bien entendu, nous parlons français. Donc le fameux dimanche sanglant, ce qui s'est passé en Irlande en 1972, tout le monde le sait, il y a eu un film qui a reçu une distinction, mais 10 ans avant le drame irlandais, il s'est passé la même chose à Rue d'Isly, le 26 mars 62. Il y a donc des soldats, j'allais dire, revêtus d'uniformes français. Ce sont des balles françaises, oui, qui tirent. Mais pour moi, je le dis, cette armée n'est pas représentative de notre armée, celle que... on nous a appris. Celle d'ailleurs, enfin, je pense que en mars 62, l'armée qui était vraiment digne de ce nom était ou sous les barreaux ou déjà rejetée en métropole. Elle n'était plus en Algérie pour beaucoup. Donc, le 4e RT, le 4e régiment de tirailleurs ex-algériens, est là. Pourquoi est-ce que ce régiment est là? Eh bien, c'est là que on trouve tout le cynisme des autorités. On met là des soldats musulmans, donc revêtus de l'uniforme français. Ils sont là pour arrêter une manifestation. Et la meilleure façon pour ces gens-là d'arrêter la manifestation, c'est de leur tirer dessus sans sommation. Donc l'armée va tirer pendant 12 minutes. Il y aura une petite accalmie. À un moment donné, on entend le fameux halte au feu qui est passé très brièvement sur les radios en 1962. Et malgré ça, et bien l'armée va continuer les soldats vont continuer à tirer. Et même alors que les Algérois sont couchés sur la chaussée, et bien ils continuent de tirer. Et lorsque des manifestants essaient de se sauver et de monter dans les immeubles, et bien ils sont pourchassés dans les escaliers. Donc le bilan est quand même terrible. Il y a une centaine de morts, plus de 200 blessés. Ce n'est pas rien. Eh bien, de cela, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas, bien sûr, déranger les bonnes âmes. Et tout à l'heure, j'ai eu un petit sursaut, Monsieur de Becquet, lorsque vous avez parlé de la messe du 19 mars. Personnellement, je n'ai rien contre le fait qu'on prie un 19 mars, ou un 20 mars, ou on peut prier n'importe quel jour.
C'est impossible tous les jours, d'ailleurs.
Voilà, si on veut prier le 19 mars pour les militaires, pourquoi pas. Simplement, c'est parce que j'ai fait tout de suite le parallèle avec l'AFNACA, et l'AFNACA, elle peut bien sûr aller prier autant qu'elle veut, c'est parfait, mais simplement le 19 mars, le cessez-le-feu et l'AFNACA, donc cette association d'anciens combattants, voudrait bien que le 19 mars soit la date de la fin de la guerre d'Algérie.
Et oui,
voilà. Et ça ne peut pas être la fin de la guerre d'Algérie, puisque quelques 8 jours après, il y a eu le 26 mars. Donc, où l'armée tire. Donc, en fait, on ne peut pas en même temps dire cessez-le-feu, et puis en même temps, on tue les Français d'Algérie. Ce n'est
pas
possible.
Oui, mais en même temps, si vous réfléchissez, vous verrez que si vous fixez la fin de la guerre au 19 mars, la manifestation du 26 mars prend les allures d'un acte factieux contre lequel il était, puisque c'était des étrangers qui défilaient, en somme. Si la guerre était finie, l'indépendance était acquise.
Non, en fait, c'est les accords d'Évian, le processus donc était lancé. L'indépendance de l'Algérie, c'était au mois de juillet.
J'entends bien, je sais bien, mais d'une certaine manière, on peut toujours argumenter.
Ça donne une légitimité, leur acte, oui.
Voilà, c'est ça. Il est légitime de tirer sur une foule qui manifeste contre alors que la guerre est terminée, ils continuent à manifester et ils incarnent l'ennemi, donc on leur tire dessus parce que ce sont des ennemis. Si toute je pense que c'est ça le calcul de ces ordures communistes, c'est tout. Et c'est pour ça qu'ils veulent absolument le 19, parce qu'autrement, ils auraient accepté ce que tout le monde disait, c'est-à-dire une date symbolique, pourquoi pas juillet, puisque c'est le...
Vous savez, mon association et puis d'autres, nous avons mené il y a quelques années de ça le combat, j'allais dire, contre le 19 mars. C'était au moment de la cohabitation, et puis il y a le ministre des Anciens Combattants, M. Floch, qui avait déposé Monsieur Floch, qui est donc socialiste, et avait déposé une proposition de loi pour instaurer le 19 mars comme date officielle de la fin de la guerre d'Algérie. Et là, ça avait été vraiment, ce qui nous fâchait vraiment. Et bon, nous avons fait une manifestation à Marseille. Je le dis, ça a été sur mon initiative. Et bon, pour une fois, effectivement, notre manifestation à Marseille a éclipsé celle de la FNACA. Et du coup, nous avons été reçus par par tout le monde, par tous les partis politiques. Et nous avons expliqué pourquoi nous étions contre le 19 mars. Nous avons parlé du 26 mars, mais nous avons parlé aussi des enlèvements au quotidien. Parce qu'il faut bien savoir qu'à partir du 19 mars, eh bien, tous les jours, il y avait des enlèvements. Et puis, même après d'ailleurs l'indépendance, ça continue. Et donc le summum, c'est le 5 juillet bien sûr à Oran, où non seulement il y a des enlèvements, mais aussi où les militaires restent l'arme au pied, ne vont pas défendre du tout les Oranais qui sont en train de se faire assassiner. Et donc nous avons été anciens combattants. Mais pas la FNACA, hein. Donc, anciens combattants et Français d'Algérie, nous avons été voir les uns et les autres en train de dire, il y a 5 dates qui fâchent. Le 19 mars, on n'en veut pas, du 18 non plus. On veut pas du 1er novembre parce que c'est le...
Bien sûr.
Donc il y a 365 jours dans le calendrier, on vous en enlève 5. Et après, vous choisissez celle que vous voulez. Ça nous est égal. Vraiment, ça nous est égal. Donc, bon, le calendrier était large. C'est tombé sur le 5 décembre. C'est le 5 décembre. Ça aurait pu être le 17 ou le 18. Moi, personnellement, ça m'était égal. À partir du moment où ce n'était pas le 19 mars. Parce que là, vraiment, c'est une date cruelle. C'est effectivement le moment où tout se déclenche. Où on comprend que, nous sommes lâchés. Qu'on va perdre cette terre française en Algérie. Et puis, il y a le Bocuse de Babylone. Tout un quartier est encerclé et pendant 3 jours les gens ne sont pas ravitaillés, l'armée tire sur les immeubles, tout le monde parle de la petite Delphine Renard, mais personne ne parle de Ghislaine Grey qui était à l'intérieur
qui était Delphine Renard sur laquelle on a menti d'une façon extraordinaire parce que tout ce qu'on a raconté sur le fait qu'elle avait été aveuglée par l'explosion et tout, c'est totalement faux.
Oui, je sais.
Delphine Renard, elle est mariée, elle a des enfants, elle doit être grand-mère maintenant, j'imagine. Et elle n'a jamais été aveugle, ni rien. Tout ça est une pure et simple fabrication de la propagande communiste, et gaulliste d'ailleurs, ce qui est un peu la même chose. Une fois de plus, le mensonge. Donc, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que la messe du 24 mars à Saint-Nicolas, c'est à la fois pour les morts du 26 mars, et pour les morts du 5 juillet à Oran.
Oui, parce qu'en fait, pour les disparus, parce que je le dis souvent, le malheur approche, et dans mon association, il y a aussi des familles de disparus, des Oranais, et en fait, il n'y a pas de messe de fête au mois de juillet il n'y a pas eu d'association, disons, des Oranais. Alors, la première année, c'est tout à fait honnêtement, c'est vrai, je l'avais faite que pour le 26 mars, et puis après, je me suis dit, mais ce n'est pas juste. C'est pas juste, il faut associer tous ceux qui sont morts après le 19 mars, toutes ces victimes qui ont été sacrifiées sur l'autel des accords d'Évian. Donc effectivement, c'est pour les Oranais. Et d'ailleurs, dans son homélie, M. l'abbé n'oublie jamais, bien sûr, de parler des disparus, de parler des harkis, de parler de ceux qui sont tombés donc au rang, bien évidemment.
Alors, donc, 24 mars à Saint-Nicolas, 18h, et puis...
18h30. Non, mais si ça arrive avant, ce n'est pas grave. Et puis, bien sûr, à la fin...
On dirait une petite prière. Vous connaissez la célèbre histoire de la négresse qui veut entrer dans une
église
dans le sud des États-Unis. Oui. Le shérif qui est là l'arrête, lui dit où tu vas. Il dit je rentre dans l'église, pourquoi? Je veux faire le ménage. Il dit oui, on vous connaît. Vous dites ça, puis vous en profitez pour faire une petite prière. Et puis également ce livre que vous pouvez envoyer moyennant combien, Franco? Si j'ose dire, parce qu'on n'a plus le droit de dire le regretter.
Franco.
Chancelier. Alors, Franco, je ne sais pas si on peut le dire encore, mais...
Oui, c'est un...
Vous savez, non?
Oui, oui, je sais, bien sûr, bien évidemment, que je sais, en colis, donc, suivi, donc, je le vends, en fait, à prix coûtant, ce livre. Il est donc à 51 €. Et il y a le prix, en fait, légitime, en fait, en fin de page de livre. En fait, il faisait 650 francs. Mais comme je dis, j'ai racheté le stock et je ne cherche pas à faire du bénéfice.
C'est un très bel ouvrage, vous qui êtes prêtre éditeur.
Ça a l'air tout à fait remarquable et splendide.
Très belle couverture. Enfin, c'est solide, c'est du relié.
Allô,
cartonné.
Allô, Radio Courtoisie, quel livre?
Un crime sans assassin. Oui, parce que je l'ai dit avant que vous n'arrivassiez, mon cher.
Il faut répéter encore.
C'est un album, c'est un livre-album.
C'est un livre-album avec beaucoup de photos. Alger, 26 mars 62, un crime sans assassin.
Toilé, magnifique.
Toilé, très gros bouquin, beau bouquin avec beaucoup de photos. Splendide, des documents historiques.
C'est tout à fait frappant. Il y a énormément de témoignages.
Et des témoignages.
Et en fait, lorsque on a lu ce livre, eh bien, on peut se faire un peu une idée de l'ampleur du drame. Bien évidemment, dans un livre, on ne peut pas décrire l'émotion, on ne peut pas décrire la souffrance des familles qui attendent depuis 44 ans, j'allais dire, un geste des plus hautes autorités. Ça, ça ne peut pas s'écrire, ça se vit. Et c'est vrai que nous attendons, et c'est bien légitime, que nos morts soient reconnus.
Alors, l'adresse, donc 50, pour le livre, 51 €, et à l'Association des familles des victimes du 26 mars 62 et de leurs alliés, mais on peut-être raccourcir l'adresse, oui. Association des familles, boîte postale 27-95-321, Saint-Leu-la-Forêt-Cedex, boîte postale 27-95-321, Saint-Leu-la-Forêt-Cedex, vous envoyez 51 neneux. Il y a un site qui s'appelle http://perso.wanadu.fr/isli/. Facile, ça. Et il y a un courriel qui est isli 26 mars en un seul mot, isli26mars@wanadu.fr. Merci, madame.
Oui, je voudrais juste dire, puisque vous avez mentionné ce site, en fait, il y en a un deuxième qui est en cours de... Enfin, il est en ligne, il n'est pas terminé, mais il reprend quelques témoignages du crime sans assassin. Et donc, l'adresse du site, c'est www.isli26mars.com. Et il y a donc aussi quelques extraits de la fusillade. Donc là, on peut...
Des images très frappantes.
On peut se rendre un peu plus compte de vraiment de ce qui s'est passé.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
On reparlera de l'affaire absolument scandaleuse du procès qui est fait à nos amis de l'Enfanoma.
Non, c'est pas...
Le procès, il y a deux affaires. Il y a un procès qui est fait aux inaugurateurs de la stèle des...
J'y étais.
Et alors,
ça va où, ça? Pour la DIMAD?
Oui.
Oui, j'y
étais. C'est la DIMAD, c'est pas l'Enfanoma.
Oui, non, je suis descendue.
Alors, on leur fait un procès parce qu'ils ont inauguré une stèle en souvenir des combattants de l'Algérie française. Et ils sont poursuivis pour apologie de crimes de guerre, c'est ça?
Pour apologie de crimes de guerre, oui. J'ai fait d'aller-retour.
Ils peuvent pas, tout est amnistié.
Mais de toute façon, il n'y a pas d'apologie de crime de guerre.
Oui.
À partir du moment où sur un monument, on met simplement la date du décès de quelqu'un, je ne vois pas comment on peut dire qu'il y a une apologie de crime. Oui. Dans ce cas-là, il faut aller faire sauter aussi les tombes dans les cimetières.
Hein. Il faut faire sauter l'Arc de Triomphe, puisqu'il y a le nom de...
De tous les généraux. J'ai un ancêtre qui est dans...
Ah bon?
Un ancêtre qui était le général de Napoléon. C'est embêtant.
Non, c'est pas mal. Le problème, c'est que personne ne pourra dire le nom de mon ancêtre Grégoire Cellier sur l'Arc de Triomphe.
Oui. Non.
C'est rappelé, ça.
Je suppose que vous voulez parler de l'affaire Ciné. C'est de ça, sans doute.
Oui. Non. Excusez-moi. On en reparlera dans une autre émission. Pourriez-vous donner quelques clés par allusion pour la compréhension de l'ouvrage sur les ambitions planétariennes? Non, je ne peux pas, gros malin. Par allusion. J'ai lu récemment dans la collection, ce sera peut-être ça, un ouvrage de Michel Lancelot, Regardez de en face où votre nom figure à la fin de l'ouvrage, avez-vous collaboré à cette fois? Ah oui, mais c'est vieux,
Ça c'est les hippies,
ça. J'avais 20 ans, c'était le bouquin sur les hippies, j'avais fait une interview de ce compositeur de musique très très moderne, Xenakis, voilà. Je pense que mon nom est dedans. Les corrections des sœurs pour le 4T sont très bien faites, avec beaucoup de soin et de gentillesse, souvent accompagnées d'images. Mes enfants suivent ce cours et j'en suis très contente, nous dit une dame. Que pense l'abbé Cellier des charismatiques? Bon, ça c'est encore un an de réflexion. On fera une émission, si vous voulez, un jour sur les charismatiques, non, ça vous voulez?
Pas de problème. Bon. Il faut me prévenir, il faut que je réfléchisse un peu.
Qu'attend l'État si nous en avons encore un pour rappeler la responsabilité de l'éducation nationale à laquelle les parents confient leurs enfants pour étudier et non pour défiler avec les risques que cela comporte? La grève n'est par ailleurs possible que pour les seuls salariés. Je m'étonne qu'il y ait des élèves mineurs des lycées qui aillent manifester sans que les parents portent plainte auprès du lycée. Mais ça, rien ne nous empêche de le faire. Il n'est pas étonnant que les médias parlent très peu des mesures prises par les Pays-Bas afin de limiter l'immigration. Cela montrerait en effet que ce souci n'est pas le fait de dangereux extrémistes nostalgiques, mais tient au cœur de démocrates ouverts mais sensibles à l'évolution réelle de l'Europe. C'est vrai. Voilà, mais maintenant je me tourne vers Patrice Serre pour parler de son... Alors, on va pas avoir assez de temps comme d'habitude, mais j'ai dit l'essentiel tout à l'heure. Ce bouquin, est sur le plan de l'édition, c'est une réussite totale.
Il est imprimé en Chine.
C'est la moindre des choses.
Je dois témoigner que je l'ai parcouru pendant le reste, et c'est très très bien fait.
C'est bien fait. C'est
très très beau.
Alors ça s'appelle Chine, on dit. Hein.
Chine, ça s'écrit Q.
Ça s'écrit Qin, naturellement.
Oui, ça s'écrit Qin.
Mais Q-I-N. C'était pas le nom de l'empereur, c'est le nom du royaume.
C'est aussi son nom. Parce qu'il s'est fait appeler Qin Shi Huangdi, c'est-à-dire le premier empereur Qin. Voilà. Et le premier empereur. Et donc, il pensait qu'ensuite, il allait y avoir un second empereur, et puis un troisième empereur, puis un millième empereur, jusqu'à l'extinction des nombres.
Et alors, il a planté, si j'ose dire, il était beaucoup plus ambitieux que le monsieur dont on parlait tout à l'heure, et dont on m'a dit qu'il fallait pas parler, parce que lui, c'était pas Milan, c'était pas l'Orange pour Milan, c'était l'Empire des 10 000 années.
Oui, mais ça, c'est une formule chinoise. Wan, ouais. Tu veux dire 10 000, c'est-à-dire
bonheur.
Beaucoup.
Quoi. Alors, c'est quelle époque, ça, cette Chine?
Alors, on est l'unification de la Chine s'est faite en 221 avant Jésus-Christ. Et donc, lui, il a eu toute une période avant où il était roi que du royaume de Chine, qui était quand même un royaume assez important, une espèce de Prusse à l'époque des royaumes combattants. Et puis il y avait les sept royaumes qui se déchiraient, ça faisait 500 ans qu'ils se déchiraient, mais vraiment, c'était une guerre sans merci et sans arrêt qui a duré vraiment un demi-millénaire, vraiment. Et c'est lui qui a unifié la Chine et qui a instauré la paix.
Alors, instauré la paix, c'est la paix des cimetières qui l'a instauré un peu quand même, non?
Pas vraiment, non, il y avait encore beaucoup de population. La preuve, c'est que la première chose qu'il a faite, c'est d'essayer d'unifier ce territoire. Donc il a aboli toutes les frontières qu'il y avait à l'intérieur, et pour en faire des commanderies différentes, avec un découpage très très différent, et puis surtout unifier la population. Et alors c'est comme ça que, pour construire la muraille de Chine, il a pris en fait toutes les populations du sud qu'il a amenées au nord. Il a fait vraiment des déportations en masse, quoi, vraiment. Et puis il y a eu vraiment, tous ces déportés évidemment mouraient comme des mouches. On pense que rien que pour l'édification de la Grande Muraille, il y a eu plusieurs millions de morts. Ce qui à cette époque-là est absolument sidérant, parce que effectivement on a une population quand même beaucoup moindre qu'aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas un milliard de Chinois, évidemment.
Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on retrouve, ça annonce tout ce qui va se produire 20 siècles plus tard avec Mao.
Ah mais carrément, alors là c'est encore mieux.
C'est la préfiguration de
Mao. Mao a pris ça comme modèle, sans aucune espèce de...
Alors les transports de population...
Parce qu'il y avait tout un truc important, c'est que la grande histoire, c'est que pendant 2000 ans, cet empereur a été très très mal vu, hein, évidemment, c'était
il n'avait pas laissé que des bons souvenirs.
Il avait laissé surtout des mauvais souvenirs. Mais pendant 2000 ans, on a appliqué sa méthode. Hein, c'est-à-dire que le système des fonctionnaires, le système de l'écriture, le système des poids et mesures, etc., etc., a duré jusqu'en 1911. Hein. Le système des examens...
Et donc, la Chine unifiée, c'est après lui. La Chine est désormais unifiée.
C'est lui qui l'a unifiée.
Et elle est unifiée, voilà.
Alors, évidemment, les poids et mesures, par exemple, c'est quelque chose d'assez sidérant.
Ah, ça, c'est prodigieux.
Les poids et mesures, le système n'est pas un système comme nous...
Métrique.
Métrique, mais c'est un système musical. Et donc chaque mesure correspondait à une note de musique. Alors il y avait dans chaque commanderie, dans chaque grande ville, quoi, deux tours, la tour du tambour et la tour de la cloche. Alors tout ce qui était le tambour, c'était le temps, les heures, etc., etc. Et puis la tour de la cloche. Alors on avait 12 cloches en fait, et c'était 12 cloches qui étaient accordées de quinte en quinte. Et qui, quand on les remettait ensemble, formaient l'octave. Alors donc, on avait les 12 demi-tons de l'octave avec la correction du coma, ce qui est absolument sidérant. Et ces cloches étaient fondues d'un coup. C'est-à-dire que nous, les cloches, elles sont évidemment toutes accordées. Hein, les cloches de nos églises sont accordées, mais elles sont accordées avec un trait de lime. On voit très bien. Ouais. Là, on a des cloches qu'on a. D'ailleurs, on a déterré un carillon qui date d'avant cet empereur, d'ailleurs, où les cloches sont accordées exactement. Et il n'y a pas un trait de lime, il n'y a rien du tout.
Ah, est-ce qu'on a une idée de la façon dont ils procédaient? Est-ce que les fondeurs d'aujourd'hui...
Non, c'est ça. Là, il y a un secret qui a été perdu. D'ailleurs, le bronze, vraiment, le bronze chinois ancien, ça, là, il y a un grand secret de fabrication qui a été complètement perdu, et on ne sait pas quand, d'ailleurs. Parce qu'ils ont, ça a perduré à peu près jusqu'au Ming, et au Ming, ça a été perdu. Le bronze était beaucoup moins parfait, quoi.
Alors, Qin est connu aussi en Occident depuis la découverte de la fameuse nécropole d'argile.
En fait, il s'est fait enterrer sous une pyramide, exactement comme les Égyptiens. Alors, c'est une pyramide colossale, mais qui était en terre de Leuce, et naturellement, pour la dissimuler, on a fait pousser des arbres dessus. Alors, c'est une pyramide immense qui fait, dont le carré de base fait 500 mètres sur 500 mètres. Enfin, c'est un truc énorme. Sous cette pyramide, il y a le fameux palais souterrain qui est la reproduction de son palais.
Alors on sait ce que c'est.
Alors on sait très bien tout ce qu'il y a là-dedans.
On n'y est pas entré encore.
Bien sûr que non. On ne peut pas, pour des raisons alors là vraiment pratiques, c'est-à-dire qu'en fait il y avait une nappe phréatique. Là, quand il a eu 13 ans, cet empereur, il a décidé que son tombeau serait là et pas ailleurs. Et donc il a fait creuser là où il voulait. Malheureusement, il y avait des nappes phréatiques, des lacs souterrains, etc. Donc il a fait creuser une espèce d'énorme tranchée autour du lac souterrain, puis il l'a attaqué sur les bords et a vidé le lac souterrain dans ces espèces de tranchées qui sont perdues dans le fleuve. Et puis en pensant qu'un jour on allait refermer les vannes et ensuite on les rouvrait, et une fois que le palais serait fait, la nappe phréatique reprendrait sa place. Donc il y a entre la base de la pyramide et le palais souterrain, il y a de l'eau. Et donc on ne peut pas creuser, évidemment. Mais l'eau, elle va beaucoup plus loin encore que le palais souterrain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas creuser par en dessous. Aller loin et puis faire un tunnel de
plusieurs kilomètres,
au moins 8 kilomètres. Ouais. Et donc le problème, parce qu'il y a eu une belle idée que certains Français avaient eu, c'était après avoir visité le trou informe de Khéops par un système de cathéter,
l'endoscope.
Donc on avait rêvé de pouvoir le faire, mais là il y a un problème de fil trop long, quoi. Donc on peut pas le faire, quoi. Mais enfin, ils vont y arriver, c'est sûr. En plus, là, maintenant, les Français ont été un peu écartés de ça. Maintenant, c'est les Italiens qui sont un petit peu en prise avec le. Et donc ils ont fait d'ailleurs des vues. À travers la Terre avec ce qu'ils appellent un radar terrestre. Et on voit des formes.
Les archives semblent révéler qu'il y aurait donc sous cette pyramide gigantesque une reproduction du monde.
Ah ben oui, c'est
argent, en mercure.
C'est donc dans le livre de Sematien qu'on sait tout ça. Ouais. Alors il reproduit la pièce principale de son véritable palais qui est, que tout le monde a vu. Ouais. ou qui faisait un hectare, hein, la pièce en question.
Et au prix de l'immobilier aujourd'hui, il n'y aurait pas de souci.
Une pièce qui fait un hectare. Et donc là, il y avait une espèce de podium au centre. Le plafond, c'était le ciel de son royaume, enfin du monde, puisqu'il pensait être le maître du monde. Donc le ciel avec les étoiles, etc. Et puis, sur le sol, il y avait les montagnes, les forêts, les rivières. Et les rivières et la mer étaient évidemment en mercure. Alors c'est assez étrange parce qu'on voyait donc ils ont fait ça avec du mercure et il paraît qu'il y avait même un mécanisme qui faisait que le mercure pouvait s'écouler. Mmh. Alors toute cette chose là jouxtait la fameuse bibliothèque où on avait rangé les livres qui étaient complètement interdits. Donc c'était le
palais
froid.
Ah donc ils n'ont pas tous été détruits ces livres parce que on a l'impression à lire votre livre que exactement comme il y a eu pendant la Révolution culturelle, on a détruit tous les livres d'avant.
Oui, c'était ça. Il en gardait un exemplaire de chacun. Enfin, les plus importants, on ne sait pas lesquels d'ailleurs. Et puis, de toute façon, il ne fallait pas les lire. Même lui, il ne devait pas les lire. Donc, ils étaient dans une bibliothèque qui portait le nom du palais froid des femmes répudiées. Et alors donc, il y avait des bibliothécaires femmes qui traversaient cette fameuse énorme pièce avec les montagnes, les forêts, etc. pour aller ranger les livres dans la bibliothèque. Et alors, il s'était aperçu qu'on pouvait arranger le bas des robes des femmes, leur donner une certaine dimension, pour que, comme ça, on pouvait compter les pas. Ouais. Et donc, un pas d'une jeune femme correspondait à une journée de chariot. Donc l'échelle de la carte était donnée par les pas des bibliothécaires.
Il y a un autre aspect intéressant dans le chariot, c'est le fameux chariot qui indique toujours la bonne direction.
Alors ça c'est bien plus tard.
Ah, c'est plus tard.
C'est assez étonnant parce que justement l'histoire des mesures. Donc par exemple pour une mesure de longueur, donc une cloche, donc le jour du marché, un marchand allait à la tour de la cloche, faisait sonner la cloche qui l'intéressait, prenait un luth avec une seule corde de soie et avec un curseur et il faisait sonner évidemment le luth et quand la note était la même, ben il avait la dimension avec la corde pour vendre son drap par exemple. Bon, mesurer le drap.
C'est quand même très tordu comme idée.
Complètement, mais bon. Et alors, donc, on est en 120, 130 après Jésus-Christ. Il y a un ministre qui est en charge justement du territoire de la Chine. Donc lui aussi fait une carte du ciel, fait une carte et il fait une carte de la Chine. Et la Chine des Han est encore plus vaste. Hein. Et il se rend compte que en faisant cette carte avec une méthode qui ressemble tout à fait à la méthode Mercator, c'est-à-dire avec les projections des carrés, il se rend compte que ça va pas du tout, que peut-être bien que la Terre est ronde.
Va savoir.
Et il dit une chose assez étonnante, oui, la Terre est ronde, c'est l'univers, c'est un œuf, à l'intérieur de l'univers, la Terre, c'est le jaune. Et donc, si c'est une boule, on peut la mesurer. En plus, il venait justement d'inventer, de trouver exactement pi, ce qui était intéressant. Donc, il mesure, d'après sa carte, une espèce d'arc, donc il en déduit la Terre,
la
rotondité de la Terre. Donc cette Terre, il la coupe en 8 parce que eux en Chine on coupe toujours en 8 parce que c'est les 8 trigrammes du Yiking, c'est les 8 immortels, enfin 8 d'après. Et puis chaque huitième en 10 000. Ce qui fait que le lit, qu'on ne pouvait pas du tout mesurer parce que c'était trop grand, parce qu'il n'y avait pas de luth assez grand pour faire 500 mètres, donc il l'a mesuré précisément, et donc depuis cette époque, le lit mesure exactement 500 mètres, 1500 ans avant qu'on ait inventé le mètre. Voilà.
C'est extraordinaire. Alors, malheureusement, je ne pense jamais que je n'ai que la moitié de l'émission, si bien que j'ai consacré... non, pas trop de temps, mais enfin, je me suis un peu oublié pendant la première partie de l'émission. Est-ce que vous voulez revenir très rapidement, Patrick, parce que je voudrais qu'on en reparle de ce roi Qin, qui est un personnage, enfin, cet empereur Qin, qui est un personnage totalement fascinant. En attendant, On peut lire Chine, l'Empire des 10 000 années de Patrice Serre, c'est paru aux éditions Philippe Piquet. On trouve ça dans toutes les bonnes librairies.
Maintenant,
les
oui.
Très bonnes librairies.
Oui, à partir du 23.
Et c'est vraiment, regardez-le, vous verrez, c'est un très très beau livre qui est à la fois une très belle bande dessinée et puis il y a une documentation très sérieuse. Et vous pouvez également, alors à l'occasion de la parution de l'album, venir le jeudi 23 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine, à l'entrepôt à partir de 19h30 où à partir de 18h30 pardon, Patrice Serre donnera une conférence sur Chine, sur l'empereur Chine, à l'entrepôt. Alors l'entrepôt, c'est 7 rue Francis de Pressensé, 75014 Paris, métro Pernetti. Et puis on refera une émission très rapidement, Patrice, parce que c'est tout à fait passionnant, c'est un sujet magnifique. Merci beaucoup.
Merci.
Patrick, non pas Patrice, va prendre la parole dans 2 minutes avec l'autorisation de nos successeurs pour vous parler de quoi ? Du Libre Journal. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Passer la soirée en notre compagnie. Je vous rappelle notre rendez-vous de 21h tout à l'heure pour les soirées musicales en compagnie de Claudio. Vous entendrez 3 parties d'émission, la discothèque pour connaisseurs et amateurs avec des œuvres de Leclerc interprétées par Gérard Jarry, enregistrées en 1976, 22h les musiques de films et 23h les grands pianistes. Ce soir, Nikolai Lugansky avec les sonates de Beethoven. Et puis tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 15 mars 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 16 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Bien, alors avant de prendre en main la dernière demi-émission avec les chroniques de la vieille Europe, on va laisser parler Patrick Goffman pour les annonces du Libre Journal de Serge Beckett.
Merci beaucoup Philippe. Oui, nous débordons d'enthousiasme et nous débordons aussi sur le temps d'autrui et je vous prie de nous en excuser, j'ai besoin de deux minutes pour parler du Libre Journal imprimé numéro 373 qui est sorti des presses aujourd'hui même. Alors ce soir, plutôt que de détailler notre sommaire, je vais faire un non moins bref exercice de journalisme comparé, comme il y a de la littérature comparée par exemple. Hier, pas plus tard qu'hier, si vous avez écouté, chers auditeurs de Radio Courtoisie, les revues de presse des autres radios, vous avez forcément entendu nos confrères unanimes chanter la louange de Libération qui venait, disait-il, de révéler que Carl Zéro serait débarqué de Canal+ en juin prochain. Alors moi j'ai entendu ça et puis j'ai sursauté parce que j'avais lu la même révélation 15 jours plus tôt dans Faits et Documents, un autre petit journal patriotique réalisé par notre ami Emmanuel Ratier, et je me suis dit que décidément c'était toujours les mêmes qui faisaient le travail et les mêmes autres qui récoltaient la louange. Alors de la même manière, j'ai trouvé injuste que nos chers confrères de Charlie Hebdo vendre 300 000 exemplaires il y a quelques semaines au lieu de 50 000 en recopiant simplement les prétendues caricatures du prophète que François une semaine plus tôt avait lui-même recopié dans la presse danoise. Et je trouve ça particulièrement injuste parce que nous faisons notre travail, si petit, si faible que soit le Libre Journal, nous faisons un minimum d'investigation que nos confrères ne font pas. En effet, nos confrères, nos gros confrères, les gros médias, nous serinent depuis que cette histoire de caricature danoise du prophète a éclaté, que le Coran interdit toute représentation humaine et à plus forte raison toute représentation du prophète. Et aucun de nos confrères n'a pu faire le travail que nous avons fait, nous, au Libre Journal, avec deux permanents et demi, qui a été un minimum d'investigation, qui nous a permis de déboucher sur la découverte du portrait officiel du prophète Mahomet. Je n'en dis pas plus, sinon que derrière ce petit scoop, qui va peut-être pas nous valoir 300 000 exemplaires, mais enfin, quand même quelques commandes à nos bureaux, j'espère, derrière ce petit scoop, il y en a un autre, parce que nous avons également déniché l'origine extrêmement pittoresque, pour ne pas dire un peu gênante pour l'islam, de ce portrait officiel du prophète Mahomet, qui est donc qui va être recopié dans 15 jours. Je suppose que dans 15 jours, en allumant ma radio, j'entendrai chanter la louange de Libération ou de Charlie Hebdo parce qu'ils nous auront recopié. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Je dirais simplement que, bien sûr, dans ce numéro 373, on traite la grippe aviaire. C'est Claude Timmerman que nos auditeurs, dont nos auditeurs se souviennent. Les événements de la Sorbonne, nous y envoyons un reporter et nous vous disons que ce que fait la droite étudiante devant la Sorbonne, nos gros confrères ne s'en occupent pas beaucoup. On a un article pour une fois d'analyse financière naturellement assez catastrophiste. On a des mots croisés depuis quelques temps. On a un nouveau chroniqueur humoristique qui n'est autre que Daniel Raffard de Bruyenne. Personne ne savait, ne se doutait que l'auteur de la désinformation autour de Jésus et Marie pouvait être aussi spirituel, aussi amusant. On a la chronique mondaine du divin Marquis. On a 24 pages entièrement rédactionnelles. Et donc, j'en termine en vous rappelant notre adresse. Pour se procurer ce numéro 373 ou tout autre, on envoie un carnet de timbres ou 5 euros. Pour s'abonner un an, on envoie 110 euros à l'ordre de SDB, 4 Place France Liste, 75 010 Paris. Pour feuilleter gratuitement la collection, c'est le site internet francecourtoise.info. Pour nous rencontrer, Serge de Beckech, le Marquis d'Olmeta et moi-même en chair en os, ce sera à la librairie Facta, 4 rue de Clichy, Paris 9e, métro Trinité, tout près de Saint-Lazare, samedi 8 avril, de 15 à 18 heures. J'ai fini, j'en ai terminé, Philippe, et je vous demande pardon à nouveau d'avoir débordé d'enthousiasme sur votre temps de parole.
parole.
Merci Patrick, on va donc pouvoir lancer les chroniques de la vieille Europe. Merci. Eh bien, bonsoir chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour ces chroniques de la vieille Europe hébergées dans le libre journal de Serge de Bekenche. Donc autour de cette table, vos chroniqueurs et animateurs habituels, Xavier Van Lierde, Grégoire Gambier, Olivier Lebrun et Patrick Péel, qui animera notre troisième demi-heure culturelle comme à l'accoutumée. Une émission qui sera légèrement différente de d'habitude puisque nous avons un invité prestigieux et qui a beaucoup de choses à nous dire, et donc on consacrera un peu plus qu'une demi-heure au temps passé avec l'invité. Et peut-être tout de suite pour commencer, puisque ma foi, chaque jour c'est le grand cycle de la vie qui se déroule, je voudrais peut-être placer en exergue de cette émission deux événements, une vie et une disparition, d'abord puisque l'un de nos chroniqueurs a eu un enfant, et donc nous sommes ici récemment, et donc nous sommes ici des supporters du combat démographique dont qui est fondamental, donc c'est un événement à souligner, et puis une disparition. C'est la disparition de Slobodan Milosevic, à qui j'avais presque envie de dédier l'émission de ce soir. Alors évidemment, on pourra reprocher beaucoup de choses à Slobodan Milosevic, et que probablement que son aveuglement et ses erreurs stratégiques auront coûté cher à lui-même et à son pays, mais la manière dont il a été traité par cette justice internationale qui n'a, et depuis 60 ans on le sait bien, que les oripeaux de ce qu'elle prétend être, la manière dont il a été traité, et pour lui et pour son pays, nous tendrait plutôt à appeler de la sympathie. Alors voilà, je voulais en quelque sorte mettre cette émission sous le double patronage de la vie et de la mort, et rappeler ce que nous pouvions penser Slobodan Milosevic. Je faisais pas un rapide tour de table avec un co-animateur que je n'ai pas prévenu de cette est-ce que vous êtes choqué qu'on place les chroniques de la vieille Europe comme ça, qu'on débute par un hommage à Slobodan Milosevic?
Non, d'autant que je partage votre analyse du côté effectivement buté et parfois destructeur qu'a comporté le positionnement de Slobodan Milosevic pour la Serbie, et d'un autre côté effectivement cet acharnement dont il a fait l'objet. Non, je souscris à votre analyse.
Grégoire Gambier.
Oui, on risque d'avoir un peu tous le même jugement. Donc je ne parlerai pas de la justice en cause, tout simplement parce que le terme n'est pas approprié et que ça nécessite en soi déjà une émission. Simplement deux choses, une figure quasi historique, en tout cas mystique pour le peuple serbe. Il va, c'est sans aucun conteste le cas. Il aura été le catalyseur de la résistance serbe et du vouloir vivre serbe malgré tout ce qui se passait dans les Balkans et malgré la pression américaine. Maintenant, le résultat politique, puisqu'on ne juge la politique qu'à ses fruits, ça aurait été désastreux pour la Serbie en premier lieu. Donc il faut savoir aussi s'affranchir de l'affect, du sentiment et de l'amitié franco-serbe et de la puissance du symbole pour aller au résultat et considérer que quand même son action aura été désastreuse pour les Européens dans leur ensemble.
Xavier Van Lierde, un commentaire ?
Oui, je serais beaucoup, beaucoup moins sévère en ce jour de deuil, dans la mesure où lorsque l'on a face à soi des adversaires déterminés et de mauvaise foi, on ne peut pas porter seul la responsabilité du résultat. Ce que vous semblez faire, Grégoire Gambier, je pense sincèrement que le sort de la Serbie, de l'ex-Yougoslavie, de la Yougoslavie à l'époque, était scellé, et qu'on ce serait faire une erreur historique que de considérer que Slobodan Milosevic en est
le fossoyeur.
C'est un jugement politique et non pas historique.
On est d'abord responsable. Lorsqu'on a face à soi des gens plus forts, eh bien, il est difficile de s'en sortir si ce n'est en courbant. Voilà, il aurait peut-être dû se souvenir qu'il n'était pas le plus fort, mais ce n'est pas non plus la voie de l'honneur. Vous allez dire que je sors de la politique pour arriver dans d'autres considérations, mais après quelques heures de la mort de Milosevic, on peut aussi parler d'honneur et pas seulement de réel politique.
Voilà, on va fermer la parenthèse. En tout cas, si on doit comparer la figure, même sur un plan esthétique, de Slobodan Milosevic face à ses juges et le visage hargneux de Carla Del Ponte, représentant de cette justice internationale fortement répréhensible, je crois que les images s'imposent d'elles-mêmes. Je crois que le visage est le miroir de l'âme, a dit quelqu'un de bien intentionné.
Oui, et pour rebondir sur effectivement, Slobodan Milosevic, dans ce cadre-là, a forcément tort. C'est un homme incarné qui a vécu des événements réels dans la vie réelle. Donc, on est forcément moins immaculé dans la vie réelle lorsqu'on est aux commandes et qu'on a des décisions à prendre que lorsqu'on est simplement un juge qui manie des concepts totalement abstraits, une vision abstraite de la vie. Et c'est exactement ce qui se produit. Et c'est le visage qui est pris aujourd'hui par cette nouvelle forme de dictature soi-disant soft, c'est de brandir un monde idéal, des normes qu'on appelle de noms divers, je sais pas, la bonne gouvernance par exemple, d'avoir en face de soi des gens qui, eux, sont confrontés à une situation dramatique sur le terrain.
On peut peut-être se poser la question, 50 procès, pourquoi ? Il va falloir quand même que les juges maintenant répondent. Pendant 5 ans, ils ont fait un procès à cet homme-là. Qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qui va en rester ? Est-ce que quelqu'un a un début de réponse ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Cette justice a mis 5 ans...
Pour imaginer que c'est parce qu'ils n'ont pas de réponse que Slobodan Milosevic est mort. Ça fait partie des éléments de la question.
Et c'est peut-être, à mon avis, et j'espère grâce à sa mort, que ce tribunal peut-être disparaîtra. Enfin, je suis peut-être utopique, mais...
Enfin, en fait, sur la justice internationale, je reviens une dernière fois, c'est que on considère souvent que la justice internationale est forcément partiale parce qu'elle est politique. Je crois qu'on est passé à un stade au-delà de ça, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de la politique. Ce n'est pas seulement un tribunal qui est au service des vainqueurs, il est au service d'une idéologie qui prétend contraindre tout ce qui est politique, donc tout ce qui relève du lien avec la réalité. Donc par définition, tous ceux qui passent devant un tel tribunal, tous les dirigeants qui passent devant un tel tribunal, ont tort, parce que ce sont des hommes réels qui gèrent des situations réelles de chair et de sang, tandis que ce tribunal, lui, est dans les limbes d'un monde parfait qui n'existe pas.
Très bien. Alors merci Xavier Van Lierde. On va refermer cette parenthèse et puis très très brièvement quelques brefs, c'est le cas de le dire, géopolitique, Olivier Lebrun ou Grégoire Gambier, ou sinon on passe directement à la présentation de notre invité.
Écoutez, peut-être pour faire le lien avec effectivement la présentation de notre invité, un petit retour pour rester dans la caractéristique géopolitique de cette émission des Chroniques de la Vieille Europe, petit retour sur le dernier voyage de VRP de Jacques Chirac en Arabie Saoudite, et sur un échec complet, bien sûr, qui mérite peut-être un commentaire et une analyse des liens aujourd'hui entre la géopolitique qui nous intéresse, la puissance et les ventes d'armement. Je voudrais parler très 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 rapidement des États-Unis et de la France pour arriver sur le pays qui ce soir nous intéresse, étant donné notre invité, la Russie. D'un point de vue géopolitique, et les auditeurs de Radio Courtoisie le savent, les ventes d'armement sont un très bon indicateur de l'influence des différents acteurs, pour trois raisons. D'abord, on se base donc sur trois éléments: l'excellence des matériels proposés, leur qualité technologique. Le deuxième élément, c'est les compensations industrielles, des transferts de technologie, donc l'aptitude du vendeur à impliquer son client dans la négociation, bien sûr. Et ensuite, le troisième élément, c'est bien sûr la puissance et l'action coordonnée des industriels, des politiques et des diplomates du pays vendeur. De ce point de vue-là, les États-Unis, bien sûr, on l'a vu au Moyen-Orient, on l'a vu en Corée du Sud, on l'a vu à Singapour, on l'a vu en Pologne avec la vente des F-16, qui avait été commentée dans cette émission de manière assez longue. Les États-Unis sont les plus habiles à fusionner ces trois éléments pour emporter la décision, quitte bien sûr à tordre le bras de leurs interlocuteurs. Donc aujourd'hui, les ventes d'armes américaines, l'industrie américaine de l'armement, qui fait très souvent les gros titres de l'actualité. Je citerai pas tout ce qu'il y a eu cette semaine, mais c'est assez intéressant. Clairement, ces ventes d'armes américaines sont une fonction linéaire de l'ambition, de la puissance et du professionnalisme des élites américaines aujourd'hui. Par comparaison, très rapidement, la France, et je reviens sur ce voyage en Arabie Saoudite, apparaît dans une marquée par la zizanie qui règne au niveau de ces élites. Hein, le président Chirac a fait chou blanc sur ce voyage en Arabie Saoudite. Évidemment, nos clients potentiels au Moyen-Orient, dans différentes régions du monde, nous sommes en concurrence avec les Américains, les Russes, avec d'autres Européens, attendent le résultat de cette fin de règne plus ou moins calamiteuse, en essayant d'analyser la politique française, de savoir qui émergera, qui est le prochain leader politique en France et qui prendra en main les contrats d'armement. Ce qui fait que la France aujourd'hui est paralysée, et l'efficacité du couple industriel et politique français est rien moins qu'évidente aujourd'hui. Ce qui nous amène à la position de la Russie. Et je crois qu'on va pouvoir, après une présentation de notre invité, effectivement lui poser peut-être une première question dans ce domaine-là. La Russie aujourd'hui est efficace, elle vend aux deux prochains géants du 21e siècle, l'Inde, la Russie, l'Inde et la Chine, qui sont ses deux principaux clients. La Russie a entamé une consolidation de son secteur de l'armement. Le président Poutine a effectivement mis de l'ordre dans le domaine aéronautique, a mis de l'ordre dans le domaine maritime. C'est à mettre en parallèle avec la consolidation du secteur énergétique. Donc il y a véritablement une politique cohérente, apparemment de puissante, de consolidation. Est-ce que l'avenir, ce n'est pas effectivement une rencontre entre l'industrie européenne de l'armement et l'industrie russe de l'armement pour faire face aux Américains qui sont appuyés sur un budget de 500 milliards de dollars et qui constitue aujourd'hui un rouleau compresseur que personne n'arrête.
Olivier Lebrun, merci. Question passionnante, mais quand même, on va, pour respecter la cohérence auprès de nos auditeurs, Grégoire Gambier, présentez-nous notre invité, s'il vous plaît.
Tout à fait, d'autant que notre invité est Andrei Gradchev, journaliste et politologue. Merci de votre présence dans nos locaux, nous en sommes évidemment honorés. Pour les auditeurs de Radio Courtoisie, un petit rappel, vous avez été conseiller de Mikhail Gorbatchev dans les dernières heures de l'Union soviétique, notamment en septembre-décembre 1991. Vous avez été chef adjoint du département international du PCUS et vous êtes connu surtout en France pour de nombreux ouvrages, enfin quelques ouvrages sur la fin justement de l'Union soviétique, je les rappelle pour mémoire. Il s'agit de l'histoire vraie de la fin de l'URSS aux éditions du Rocher, publié en 1992, de la chute du Kremlin chez Hachette en 1994 et de l'exception russe Staline est-il mort aux éditions du Rocher encore en 1997. À l'occasion de la sortie de cet ouvrage d'ailleurs, vous étiez intervenu il me semble sur Radio Courtoisie déjà. Donc merci encore de votre présence et
excusez-moi Grégoire Gambier, qu'on peut citer quand même le livre le plus récent de monsieur Gradchev, 2002 si je ne m'abuse, le mystère Gorbatchev, qui avait été largement remarqué et commenté à l'époque.
Encore une fois, aux éditions du Rocher.
Tout à fait.
Très bonnes éditions, décidément.
Faut vous parler plus près du micro. Voilà.
Avant peut-être de répondre directement à la pertinente question d'Olivier Lebrun, un petit rappel, puisque nous sommes tous ici, les animateurs de l'émission trentenaires ou à peu près, nous avons été bercés dans l'anticommunisme le plus primaire, et donc l'antisoviétisme, évident, avant la chute du mur de Berlin. Nous avons d'ailleurs écouté... écoutons toujours avec nostalgie Jean-Pax Meffray qui nous a élevés dans ce culte de l'anticommunisme.
Monsieur Adelaide.
Tout à fait. Mais il fallait quand même rendre hommage aussi à Jean-Pax Meffray aujourd'hui. Bon, tout ça pour dire que nous nous sommes bien évidemment réjouis de la chute du mur de Berlin et notamment parce que c'était un retour un peu inattendu de l'histoire. Alors peut-être un petit rappel, vous qui avez bien connu cette période, pour situer un peu les enjeux et le contexte dans le monde dans lequel on vit maintenant, qui est quand même celui-là. Comment ça a pu arriver aussi rapidement et tout simplement, est-ce que l'Union soviétique et Gorbatchev, donc à l'époque, ont joué la carte ou ont été dépassés totalement par les événements?
Écoutez, il y avait peut-être, comme c'est souvent le cas dans les grands événements historiques, le mélange, le cumul des différents processus, c'est-à-dire il y avait un projet politique entamé par Gorbatchev, un projet de la réforme, un projet qui a commencé comme un programme du perfectionnement, donc on peut dire du sauvetage du système et de l'État. un projet qui ensuite a pris sa propre dynamique. Et donc je dirais que le grand mérite de Gorbatchev, pour moi, c'est pas uniquement ou pas essentiellement le fait qu'il a engagé le processus de réforme, parce qu'à l'époque où il est devenu dirigeant de l'ex-Union soviétique, bon, ce serait pas un sacrilège de le dire, surtout enfin venant de l'ancien porte-parole de Gorbatchev, mais je dirais que quasiment n'importe qui serait obligé d'engager des réformes dans un système qui est arrivé quasiment à un état de la mort naturelle. Le grand mérite de Gorbatchev, c'était qu'il ne s'est pas arrêté à partir du moment où il a constaté que la dynamique du processus qu'il a déclenché devait obligatoirement le conduire, et l'ensemble de la société soviétique à l'époque, au-delà des marges, des frontières du système. Et amenant avec l'évolution de ce projet éventuellement, et même probablement, sa propre chute personnelle, sa destitution ou un coup d'État, comme c'était le cas en mois d'août de 91, ou peut-être une démission forcée, comme finalement, s'est avéré, la conclusion de sa carrière politique. Donc, d'une part, un processus politique, ensuite l'histoire qui se met en marche, et de ce point de vue, encore une fois, le mérite de Gorbatchev et de son projet était de se mettre du côté de l'histoire. Donc, de ce point de vue, le fait que le mur de Berlin devait chuter, après tout, c'était tout simplement, la question du temps. Donc il fallait choisir soit d'y résister ou de l'accompagner, et de l'accompagner de la façon à ce que les relations de la Russie avec la prochaine Allemagne, la nouvelle Allemagne, l'Allemagne réunifiée et donc l'Europe réunifiée, seront au maximum harmonieuses et avantageuses pour les deux et pour la Russie essentiellement.
Et quand aujourd'hui Mikhail Gorbatchev se penche sur l'œuvre de Poutine, qu'est-ce qu'il en pense à votre avis?
Écoutez, il soutient une partie importante, je dirais, de l'action, de la démarche de Vladimir Poutine. Déjà comme quelqu'un qui a pu nettoyer, on peut dire, les écuries de Gias après Yeltsin, c'est-à-dire quelqu'un qui a pu remettre de l'ordre dans le fonctionnement de l'État, qui a pu rétablir l'autorité de l'État comme système minimal, nécessaire, surtout au compte tenu de la tradition historique et culturelle de la Russie. Nécessaire aussi pour la poursuite des réformes, économiques, l'évolution du système politique. Donc, dans ce sens, Gorbatchev a soutenu Poutine, surtout dans la première partie de son programme. En même temps, il n'a pas caché ses réserves, ses hésitations, ses critiques. Au moment où la réalisation de ce projet, de ce qu'on peut appeler dès maintenant quelque chose comme un poutinisme qui est en train de s'installer dans ce pays, commence à manger sur les parties importantes du projet, de la vision par Gorbatchev de la réforme nécessaire pour la société russe, c'est-à-dire les libertés démocratiques, la liberté de la presse, glasnost, qui était une composante importante du projet de la perestroïka. Il y a un autre aspect de la démarche poutinienne que Gorbatchev partage et dans lequel le soutien, c'est le rétablissement de l'autorité de la Russie sur la scène internationale. Il est vrai que dans cela, Poutine est largement porté par le prix du baril de pétrole. Bon, mais comme vous dites, peu importe, les politiques sont jugées par les fruits de leurs actions.
Justement, à votre sens, à quel défi est confrontée aujourd'hui la nouvelle Russie, les principaux défis géopolitiques ?
Ah, je dirais, pour moi, le grand défi de la Russie, curieusement, ça peut paraître paradoxalement, c'est sa force retrouvée, ou enfin le sentiment de la force retrouvée. Parce que vous voyez, enfin, la période de sa crise, la crise que je qualifierais de la crise de transition post-communiste, après tout une sorte d'une mue historique que cette société était obligée, enfin, de subir, de vivre après la chute du système, qui, dans le cas de la Russie, était un trauma particulièrement douloureux, parce que, dans le cas de la Russie, il s'agit de la chute du système, d'accord, mais aussi d'un projet idéologique qui était porteur pour l'ensemble de la société, de toute façon une bonne partie de cette société depuis la révolution du début du siècle, mais il s'est agi aussi de la chute de l'Empire, et donc largement et considérablement de l'état traditionnel de la Russie, avec surtout le départ des anciennes républiques soviétiques, qui d'ailleurs historiquement avaient constitué le corps historique de ce pays. Donc l'ensemble, eh bien, de l'effondrement vous donne, enfin, l'image, la dimension, en quelque sorte, de cette catastrophe politique et psychologique pour au minimum une ou deux générations des ex-soviétiques et des Russes. Et donc après avoir passé par cette période de la transition, par un tunnel de la transition qui, dans le cas de la Russie, devait obligatoirement durer plus longuement que, par exemple, la même phase dans les sociétés pour l'Europe de l'Est, par exemple, puisque dans leur cas, il était la question juste bien de retrouver leurs histoires précédentes, leurs histoires naturelles, alors que pour la Russie, il s'est agi de la nécessité de la reformuler considérablement. Donc après la sortie de cette phase de la transition, surtout avec le rétablissement de l'économie, avec la possibilité pour les gens finalement de se sentir un peu gratifiés après toutes ces années de difficultés et de souffrances, ce qui s'impose devant la société, mais aussi devant le pouvoir et Poutine, c'est le choix. Le choix du modèle, le choix du système, le choix de la voie, mais aussi le choix des alliés stratégiques sur la scène internationale. La Russie diminuée aux dimensions, enfin, d'un pays qu'il était peut-être en XVIIe siècle, avant les grandes conquêtes en direction des pays baltes ou du Caucase ou de l'Asie centrale, eh bien, doit maintenant trouver sa place sur une scène principalement différente.
Mais dans ce que vous dites, on a l'impression que le processus de reconstruction ou de reconquête est quasiment arrivé à son terme et que ça y est, il y a des choix à faire. On pourrait avoir une autre analyse qui est de dire le processus n'est pas abouti. D'abord parce qu'en termes sur les réformes économiques, il y a encore beaucoup à faire. Notamment, on parle du système bancaire, on parle de toujours cette. Enfin, il y a encore un certain nombre de sujets qui sont potentiellement explosifs. La situation démographique est loin d'être réglée, même si a priori les courbes repartent dans le bon sens. Et puis surtout, depuis 5 ans, de manière beaucoup plus directe que les années précédentes, la Russie est combattue frontalement hier en Ukraine, demain en Biélorussie, avant-hier en Géorgie, et peut-être ailleurs encore, est-ce moins évident? On peut parler de l'Iran, on peut pas. Et donc, on pourrait imaginer que le processus de reconstruction de la puissance n'est pas encore abouti et que donc l'heure du choix, que faire de cette puissance retrouvée, n'est pas un choix actuel.
Oui, vous avez raison, sauf qu'il ne faut pas, à mon avis, confondre la gestion des problèmes du jour qui arrivent. Évidemment, les réformes économiques ne sont pas conduites jusqu'à la conclusion, la réforme bancaire, toutes sortes d'autres choses. La fracture sociale, par exemple, un phénomène radicalement dramatique pour la société russe, surtout pour une société éduquée depuis les années du soviétisme, dans la mythologie d'une société égalitaire. Voilà, tout ceci reste à faire. Ensuite, les choix s'imposent sur la scène internationale. Mais quand je dis qu'il y a le problème du choix capital, c'est finalement le modèle politique, le modèle économique en partie, dans le sens de, je dirais, des rapports, de relations entre la société et le pouvoir. Et de ce point de vue, enfin, la question, si vous voulez, enfin, qu'on pourrait formuler sommairement, veut-on, va-t-on revenir en arrière, pas en arrière soviétique, mais en arrière largement traditionnel pour la Russie, c'est-à-dire
impérial,
vers l'État autoritaire, bureaucratique, qui a l'ambition et la prétention de gérer l'ensemble, eh bien, du territoire, mais aussi des affaires de la société, ou bien se lancera-t-on, aura-t-on le courage, eh bien, de se lancer dans un monde différent, dans un monde plus démocratique, plus moderne, c'est-à-dire avec le pouvoir qui ferait plus de confiance à la société.
De ce point de vue-là, puisqu'on parle des fondamentaux, hein, de l'identité culturelle, historique, de la géopolitique russe, et d'un éventuel retour en arrière, quelle est aujourd'hui la place de l'orthodoxie en Russie, de la hiérarchie orthodoxe, quel est le degré de prise en compte de cette hiérarchie par Poutine, et quel est le rôle qu'elle peut jouer dans les 20 ans qui viennent, et à plus long terme, en Russie, si on parle de ce retour sur les fondamentaux.
Est-ce qu'elle peut peser sur le choix du modèle?
Tout à fait.
Oui, c'est curieux que vous posez la question en ces termes, c'est-à-dire vous posez la question en termes de la place de la hiérarchie religieuse, les hiérarchies orthodoxes, pas en termes de la place de la religion, même de la foi dans la société russe, alors que traditionnellement et culturellement, évidemment, la Russie orthodoxe était construite considérablement, eh bien, avec le ciment de la foi. D'ailleurs, enfin, un constat peut-être qui viendrait comme naturel, enfin, de la bouche de quelqu'un qui était un fonctionnaire du comité central du parti, même la version russe du communisme portait considérablement les aspects religieux pour une partie importante de la société. La foi en communisme, dans le communisme, est venue remplacer, c'est vrai, très souvent imposé par le pouvoir, le régime, remplacer le foi le foi chrétien. Maintenant, avec l'effondrement, pas seulement les structures politiques et étatiques, il y a eu aussi l'effondrement de cette utopie communiste. Il y a un phénomène d'une sorte de désert idéologique et même spirituel. Et il serait tout à fait naturel à ce que l'Église orthodoxe reprenne sa position dans la société. Sauf que je constaterais que la hiérarchie orthodoxe, elle devance considérablement le retour de la foi dans la société. Et il est peut-être assez logique à ce que les prêtres, les hiérarchies orthodoxes se pressent à occuper la place qui appartenait, il y a une quinzaine d'années, aux idéologues du régime. Parce que il est tout à fait possible à ce que la religion orthodoxe occupe la place de l'idéologie officielle. On voit bien, on constate que Vladimir Poutine, qui est croyant et qui l'affiche, de toute façon qui n'est pas du tout, enfin, à se confirmer comme croyant, établit des relations de plus en plus affichées, publiques, avec la hiérarchie de l'Église. Et donc, de ce point de vue, il faut dire que ça va dans le sens peut-être du renforcement de l'État, mais en même temps, ça ne passe pas sans problème, sans créer de problème dans un État et surtout dans la société multinationale et multiconfessionnelle qu'a toujours été la Russie.
Justement, puisque vous parlez de l'aspect multinational et multiconfessionnel de la Russie, qu'en est-il des relations futures, selon vous, entre la Russie et les ex-républiques soviétiques, entre les miettes de son empire, son étranger proche, pour reprendre une expression consacrée?
Là encore, ça fait partie de cette nouvelle agenda qu'à mon avis doit être celle quotidienne de Vladimir Poutine, puisqu'après tout, la gestion par les régimes précédent de cette énormité qu'était la Russie impériale d'abord, soviétique ensuite, eh bien la gestion de cet espace avec l'ensemble des peuples, plus d'une centaine de différentes nationalités, c'est vrai, bon, il n'y avait que 15 républiques soviétiques, mais ça n'empêchait à ce que l'ensemble, la grande richesse multinationale de la société russe sur ces territoires était énorme. Maintenant, suite à cette implosion de l'État fédéral, de l'Union soviétique, la Russie est obligée à redéfinir la nature des relations avec les anciennes républiques soviétiques. Poutine n'a pas hésité à qualifier l'effondrement de l'Union soviétique à la plus grande catastrophe du XXe siècle. Bon, à mon avis, c'était peut-être une formule pas très bien réfléchie, puisqu'il y avait quand même des catastrophes comme les deux guerres mondiales ou l'Holocauste dans le courant du XXe siècle. Bon, c'est vrai que l'effondrement de l'Union soviétique a été ressenti par des millions des ex-soviétiques comme une catastrophe parfois personnelle, c'est vrai. Ceci étant, les relations avec les nouveaux États indépendants, les ex-républiques soviétiques, évidemment, même si on ne cesse de parler de la possibilité de reconstruction d'une union entre la Russie et la Biélorussie, eh bien, on voit que, ça ne va pas passer sans difficulté. Encore moins de chances de reconstruire un État confédéral même avec les autres anciennes républiques. Donc, il faut trouver d'autres motifs, mais aussi, d'autres éléments qui regrouperaient autour de la Russie. D'ailleurs, ce qui serait, à mon avis, assez justifié, déjà du point de vue économique, les morceaux, recoller un peu cet espace économique autour de la Russie, d'autant plus que les anciennes républiques soviétiques restent largement dépendantes de la Russie, rien que pour ce qui concerne le gaz et le pétrole. Culturellement et historiquement, des liens aussi restent tout à fait naturels, et il faut peut-être rassurer les nouveaux régimes, les nouvelles élites dirigeantes de ces pays, de ce que cette démarche en quelque sorte confédératrice de la Russie ne va pas dans le sens impérial.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que dans cet étranger proche, la Russie est aussi en face d'une offensive? Une offensive notamment anglo-saxonne, menée non seulement par les diplomaties anglo-saxonnes, mais par toute une série de courroies de transmission, des think tanks, des ONG et autres qui travaillent les sociétés de ces pays de l'étranger proche pour les sortir de l'orbite et de la zone d'influence de la Russie. J'en veux pour preuve, un ami me parlait tout récemment d'un tout récent rapport d'un think tank anglo-saxon, le Conseil pour les relations internationales, et dont le dernier rapport s'intitule « La Russie dans la mauvaise direction, que doivent et que peuvent faire les États-Unis ». Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est passé du containment au rollback, pour reprendre une expression de l'époque?
Et pour compléter ça, puisque vous disiez une des pistes, c'est on pourrait commencer par de l'intégration économique, mais le projet de la Russie, c'était cet espace économique entre la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, le Kazakhstan, qui a failli être finalisé. Et le premier qui a dit « j'en veux pas, je veux faire autre chose », c'est l'Ukraine de Yushchenko.
Oui, vous avez raison, c'est peut-être une explication pour moi de la réaction, on peut dire presque allergique, et même violente de Poutine face à cet événement, parce que le départ de l'Ukraine, avec suite à la révolution orange, sa sortie de ce projet, de cette perspective de la reconstruction de l'espace économique commune, devait signifier pour lui l'effondrement de ce que doit rester, à mon avis, dans sa tête, finalement, un de ses objectifs, c'est-à-dire la reconstruction, pas seulement de l'autorité de la Russie en tant qu'État, mais aussi de la Russie en tant que valeur stratégique sur la scène internationale, avec sa zone d'influence, avec entouré des voisins, mais aussi des alliés. Reste que, à force de forcer trop, parfois, vous finissez par casser Mais ce qui s'est produit dans le cas de l'Ukraine, ce qui n'empêche d'observer de ce que de l'autre côté. Et là, on entre déjà dans une sorte de cercle vicieux, peut-être, de soupçons réciproques. Et finalement, je dirais, dans le retour de l'ancienne logique, quasiment de la guerre froide, lorsque, eh bien, les voisins de la Russie la soupçonnent d'être animés, d'être inspirés par le projet néo-impérial, alors que les Russes, à l'intérieur de la Russie, eh bien, sont en train de regarder l'action des autres forces extérieures, y compris les forces occidentales, pas seulement américaines ou anglo-saxonnes, comme vous dites, mais aussi l'Occident, au sens plus large, comme cherchant à effectuer ce qui s'appelait à l'époque de la guerre froide le rollback du communisme, mais qui est interprété actuellement en Russie finalement comme la preuve de ce que même à l'époque de la guerre froide cette action anti-soviétique de l'Occident finalement visait plutôt la Russie en tant que pays, en tant que nation, en tant que force géopolitique et géostratégique.
Votre analyse, André Igratchev, sur ce point nous amène donc à la question des relations actuelles entre les États-Unis et la Russie. La Russie de Poutine, les États-Unis de George Bush. Alors très récemment, un rapport est sorti aux États-Unis d'un de ces think tanks dont parlait Xavier Van Lierde sur la Russie, intitulé les mauvais choix russes. Que peuvent et que doivent faire les États-Unis ? Très critique sur la Russie, il a eu un assez grand retentissement, il a été repris dans un certain nombre de journaux russes. Ça montre qu'il y a une sorte de méfiance, et même plus qu'une méfiance du côté américain pour ce partenaire russe qui peut apparaître comme un allié dans la lutte globale contre le terrorisme, pour reprendre la phraséologie américaine, mais qui fait peur, mais qui crispe un certain nombre de hiérarques washingtoniens. Quel est aujourd'hui l'état des relations entre les États-Unis et la Russie, et qu'est-ce que Poutine peut en attendre ?
Écoutez, là, encore une fois, à mon avis, nous sommes face à un moment de choix important, de choix stratégique. Et c'est vrai qu'il s'agit de choix qui doivent être faits de deux côtés. Vous dites l'appréciation par les Américains de l'évolution de la Russie et de Poutine. Il y a encore quelques années, Poutine passait pour le meilleur ami de George W. Bush, et ceci au moment où, la Russie de Poutine, avec d'ailleurs la proposition de Poutine de s'allier à l'Amérique dans la coalition contre les talibans et le terrorisme islamiste, était considérée par les Américains comme un apport important dans leur lutte contre le terrorisme international. Reste que maintenant, on constate, et je reviens à mon analyse du départ, c'est que avec la sortie de la Russie de sa position de faiblesse, de sa position de la dépendance imposée, je dirais de l'état d'humiliation, enfin, qui était certes présente, et bien surtout dans les premières années suite à l'effondrement de l'Union soviétique, et qu'on constate que la Russie commence à croire en la possibilité de s'offrir une politique indépendante, une politique originale, une politique qui servirait ses Russe. Propres intérêts géostratégiques. Là, en Amérique, on voit que de l'ami de cœur de George W. Bush, puisque la célèbre formule du président américain, on la connaît bien. Je regardais Vladimir Poutine dans les yeux, j'ai découvert son âme. Et maintenant, il constate
la lucidité
comme
de George Bush,
comme si c'était une
caution. Il y avait un ours derrière.
Une toute autre personne. Mais là, je dirais, ce refroidissement évident des relations entre la Russie et l'Amérique, qui n'est pas allé, évidemment, au-delà, ou jusqu'au point de la rupture, mais tout simplement, on peut constater la fin de la lune de miel. est le fruit pour moi de cette double évolution, de l'évolution de la politique américaine, dont une des parties, un des éléments, était précisément, je dirais, la tentative, à mon avis, mal réfléchi, de profiter de cet état de la faiblesse de la Russie et de se lancer dans ce vacuum stratégique qui a été laissé par la Russie suite d'abord à son départ de l'Europe centrale et orientale, ensuite face au phénomène de la remontée des nationalismes dans les ex-républiques soviétiques. On connaît bien les formules assez célèbres des géostratèges américains comme Brzezinski qui depuis pas mal de temps revêt de la possibilité d'arracher l'Ukraine de l'union avec la Russie. Bon, c'est peut-être un ancien Polonais qui ne peut pas se permettre du revers en disant que sans l'Ukraine, la Russie ne sera jamais l'empire. Mais pour moi, la Russie, enfin son choix d'être ou ne pas être impérial, c'est pas dans sa politique extérieure, c'est surtout dans son choix politique et démocratique à l'intérieur.
Oui, l'empire est toujours intérieur d'abord.
Moi j'aimerais bien qu'on en vienne à l'après-Poutine, parce que Poutine pour l'instant effectivement, et on est tous d'accord pour dire, a remis de l'ordre dans cet état russe, a remis l'état au centre de la politique et de la géopolitique russe. Mais derrière Poutine, est-ce qu'il a vraiment mis en place un état qui pourra durer après lui, ou est-ce qu'on risque peut-être de se retrouver dans une période à la Helsine avec un capitalisme comme on l'a vu juste après la chute? Est-ce que Poutine a vraiment décidé que derrière lui, il mettait en place un vrai État russe?
Pour moi, le danger est ailleurs. C'est pas le retour du chaos yeltsinien. C'est précisément peut-être le fait que Poutine, après avoir reconstruit l'État suite aux années du chaos, du débordement, mais aussi de la règne, bien de différentes structures, parfois mafieuses, parfois enfin de corruption aux échelons supérieurs de l'État, que Poutine laisse derrière lui un État trop archaïque, c'est-à-dire un État trop bureaucratique, un État qui se croirait efficace dans un monde tout à fait différent par rapport à ce qu'est le monde aujourd'hui. Parce que on voit avec cette démarche de la reconstruction de l'État, de l'autorité de cet État, eh bien, les appétits de l'ancienne bureaucratie, qui évidemment, déjà à l'époque soviétique, elle n'était pas idéologiquement motivée, c'était purement la question du pouvoir. Et donc, la possibilité de se retrouver à peu près dans le même statut et dans la même logique de rapport entre le Kremlin et le reste du pays, c'est ça qui peut être le vrai danger, puisque cette nouvelle ossification, enfin, des structures étatiques et de la politique de la Russie, déjà, vous voyez, bon, il n'y a pas de danger à ce que le successeur de Poutine serait quelqu'un qui viendrait de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Enfin, de l'opposition digne de ce mot, ou surtout de l'opposition avec un poids nécessaire pour défier, pour tout simplement présenter une alternative. Et donc, c'est ça le grand problème, et un danger à l'inverse, peut-être, pour la Russie. C'est cette reconstruction d'un État unidimensionnel, en quelque sorte, qui, malgré toutes les ressources énormes du pétrole et du gaz, mais terminer par rigidifier le système politique et par l'aliéner par rapport à la société qui déjà représente le 21e siècle.
Oui, pour reformuler un petit peu tout ce que vous dites, en fait, on est dans un moment historique où on a d'un côté les États-Unis qui ont eu la maladresse de vouloir remplir le vide stratégique laissé par la Russie et qui sont maintenant un peu embêtés de ce retour avec les contacts qu'ils ont partout. On a la Russie qui est en reconstruction et qui est en choix de modèle. Et vous dites que le choix du modèle
extérieur sera la conséquence d'un choix de modèle intérieur, et c'est celui qui vous préoccupe aujourd'hui. Il y a un troisième acteur dont on ne parle pas encore, et qui est celui qui nous intéresse, qui est l'Europe. L'Europe qui, elle, a tout intérêt à cesser de subir aussi cet impérialisme diplomatique, stratégique, militaire, économique, ultralibéral qu'est l'impérialisme américain et ou celui de la Commission de Bruxelles qui se rejoignent pour beaucoup. Est-ce que l'Europe peut jouer pour éventuellement calmer Washington, aider Moscou à sortir d'une crispation qui vous inquiète? On se rend compte qu'aujourd'hui l'Europe, comme sur beaucoup de sujets, est muette, voire inapte à prendre des positions. On se rend compte, par exemple, sur un pays comme la France, qui plutôt sur la scène diplomatique est un pays en grande sympathie avec la Russie, on ne voit pas relayer dans les médias, dans les discussions, une vision de compréhension envers notamment le traumatisme qu'a subi la Russie, en gros de 91 à 98. Que peut faire l'Europe et où la France pour aider, pour calmer les uns et aider les autres?
Écoutez, si on pouvait raisonner purement théoriquement, il n'y a pas de la meilleure perspective que l'alliance naturelle, ou plutôt la reconstruction, je dirais, des liens naturels, historiques, culturels, bon, en commençant par les liens entre la Russie et la France. Il n'y a pas d'autres pays européens, peut-être d'un pays étranger, vous pourrez à n'importe quel moment faire un sondage bien sur tout le territoire de la Russie en allant jusqu'à Vladivostok, et la France, pour moi, sera certainement à la tête de cette liste. Pour ce qui concerne les sympathies traditionnelles et populaires dans ce pays. Ceci étant, il y a un raisonnement pas que émotionnel et culturel, il y a un raisonnement moderne, politique, économique et stratégique. Il y a certes la complémentarité entre ce que représente l'Est de l'Europe, enfin en forme de la Russie, l'Est de l'Europe qui va jusqu'à Pacifique, avec la Russie, jusqu'à Vladivostok, puisque évidemment, il s'agit d'un pays européen qui n'a jamais cessé d'être européen, même à l'époque où il était communiste, puisque bon, n'oublions pas qu'y compris même l'idéologie communiste, elle l'a emprunté à l'Occident. Voilà. Ceci étant, il y a cette complémentarité entre l'Europe qui, déjà au niveau par exemple des ressources, est dépendante considérablement de la Russie, avec 20% du pétrole, plus de 40% du gaz. Il y a la Russie qui est le partenaire le plus important de l'Union européenne économiquement, et qui est la source la plus importante des investissements dans l'économie russe actuelle. Il y a certes, à mon avis, une sorte de projet idéal de la reconstruction de cette alliance entre la Russie et l'Europe, pas en forme de l'entrée de la Russie dans l'Union européenne, puisque c'est pas réaliste déjà. À mon avis, il s'agit, dans le cas de l'Union européenne, enfin de la structure qui a fait de trop-plein. Mais cette complémentarité, on peut dire stratégique, au sens pas militaire de ce terme, parce que dans le grand enjeu de ce 21e siècle, qui va être peut-être la concurrence, peut-être la compétition, bon, espérons pas le conflit entre l'Amérique et la Chine, l'Europe, pour survivre en tant que valeur stratégique, en tant qu'une présence, qu'un pôle d'influence sur la scène internationale, à mon avis, ferait mieux de s'assurer un allié naturel comme la Russie.
C'est le retour de la maison commune européenne.
Alors justement, j'allais y venir très rapidement pour commenter, parce que deux, trois messages, rappeler qu'on est sur Radio Courtoisie, dans le libre journal de Serge de Beketch. Juste, trois messages et une question. Premier message d'auditeur, je retiens de Gorbatchev une seule chose, cette formule, l'Europe est notre maison commune. Peut-être est-ce vous qui l'avez écrite, je ne sais pas, cette formule à l'époque. Merci pour la dédicace à Milosevic, l'Europe occidentale s'est déshonorée. Vive la grande Europe. Un autre commentaire, je ne vais pas lire le message, mais simplement, on disait tout à l'heure qu'il y avait une faible connaissance des Français de ce qu'a souffert la Russie et de ce qu'elle est aujourd'hui. Un auditeur nous dit aviation obsolète, marine rouillée, char en panne, le pays est ruiné, etc. Je crois que c'est un contresens. Certes, le niveau de vie en Russie n'est pas celui que nous connaissons, mais je crois, peut-être nous contredirez-vous, que l'intelligence de ce pays est d'avoir sanctuarisé un certain nombre de technologies qui fait qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de domaines, que ce soit dans le spatial, je rappellerai à cet auditeur aujourd'hui que quand les stations orbitales américaines sont en panne, les seuls qui peuvent les dépanner sont les vaisseaux russes. Donc ils sont pas si rouillés que ça, ou en tout cas ils sont un peu moins rouillés que ceux qui marchent plus à Cap Canaveral, et que sur les technologies comme les sous-marins ou même certains systèmes de missiles, je crois que la Russie est tout à fait aux normes. Et enfin, au sujet de l'après-Poutine, une question. Et si Poutine s'arrangeait pour être le successeur de Poutine, qu'en pensez-vous? Et puis après, on donnera la parole à Xavier Van Lierde qui voulait intervenir.
Il boue.
Bon, je commence par la dernière question. Poutine, succédant à lui-même, je ne veux pas le croire. Et de toute façon, je dirais que j'apprécie mieux ce personnage parce que je ne crois pas qu'il choisirait, de ce fait, une sorte de chemin d'un Loukachenko en Biélorussie ou d'un satrape d'une des républiques de l'Asie centrale. Il peut s'inscrire dans le positif de son action, le fait qu'il a certes reconstruit un État russe comme un État qui fonctionne, et d'ailleurs lui-même à plusieurs reprises il a souligné la nécessité et la valeur du respect de la Constitution, de la loi. N'était pas gêné même de parler de la dictature de la loi. Et normalement, il ne peut pas
se parjurer ainsi.
Alors peut-être, est-ce que vous le voyez faire une fin à la Gerhard Schröder à la tête de Gazprom, par exemple?
Oui, là.
Est-ce que ça serait une trahison justement de cet idéal et de ces déclarations?
En répondant précisément à une telle question, il a dit qu'il se voyait pas en businessman, mais que en tant qu'homme politique, il trouvera sa place bien après son départ du pouvoir. Ce qui est quand même évident pour moi, c'est que le successeur de Poutine, ce sera quelqu'un qui sera, si pas désigné par lui, mais de toute façon, qui sera quelqu'un qui se tiendrait.
Alors, on a, parmi les messages, j'aurais pu citer aussi, puisque ce dernier vient d'arriver, un grand merci pour cette belle émission. Il y a longtemps que l'on attend que l'on parle ainsi de la Russie. On en redemande. Donc, ouais. D'autres messages, effectivement, comme ça, nous félicitent de faire entendre des voix originales et discordantes du concert un peu classique médiatique sur la Russie aujourd'hui. Xavier Van Lierde, vous vouliez intervenir tout à l'heure.
Oui, vous aviez contenu votre précédente intervention en écrivant combien, effectivement, une alliance entre l'Union européenne, l'Europe occidentale d'une part et la Russie serait propre à apporter à ces deux poumons de la civilisation européenne un avantage stratégique majeur pour le siècle qui s'ouvre. C'est une analyse qui est assez largement partagée. Et pourtant, comment se fait-il, à votre avis, alors qu'on n'en prenne pas le chemin? Comment se fait-il, à votre avis, par exemple, qu'on ait le sentiment en Russie, peut-être à juste titre, que l'Europe occidentale est baltisée? On parle de baltisation. Quels sont les verrous, à votre avis, à faire sauter pour que cette alliance puisse, cette maison commune, naître?
Écoutez, cette maison commune, formule heureuse de Gorbatchev, pour lui, cette maison devait avoir deux supports. Un support occidental, avec une Union européenne, je dirais plutôt organique, tel qu'il se présentait à l'époque, limité à un espace assez bien défini, qui était l'Europe occidentale, qui était organique et naturelle, et même, dirais-je, assez homogène, à la fois de point de vue et politique et économique, et notre support à l'Est. Mais à l'époque, Gorbatchev, évidemment, quand il avançait cette idée de la maison commune, il revêt, d'une part, de l'Union soviétique réformée, enfin, qui se transformerait en une sorte de la communauté européenne de l'Est. Voilà, avec la nouvelle nature de relations entre les États indépendants. Avec
la CEI a été pensée comme ça, communauté des États indépendants.
La CEI était déjà une formule obligée. Plutôt pour accompagner le divorce et bien des différentes républiques qui avaient quitté l'Union soviétique. Bon, le fait que l'histoire s'est accélérée au point de se transformer en quelque sorte en une avalanche, a fait éclater aussi le projet initial de Gorbatchev. Mais il faut faire confiance, à mon avis, à l'histoire. Avec, par exemple, toutes les ONG anglo-saxonnes qui, par exemple, avaient cherché de développer en Géorgie ou en Ukraine des courants anti-russes, ou par exemple créer des projets, par exemple, d'occidentalisation forcée de sa république. Mais au bout de 2 ans, suite à la révolution orange en Ukraine, qu'est-ce qu'on découvre ? On voit que la nature reprenne la force des choses. La nature de l'histoire, la nature de la culture, mais aussi la nature de tout simplement du bon sens. Et donc, de ce point de vue, faut faire confiance à l'histoire. Reste que, à mon avis, de l'autre côté, du côté de la Russie, il faut non plus ne pas forcer les choses pour ne pas soulever les démons, enfin, du nationalisme qui sont particulièrement vivantes et sensibles parmi les petits peuples, parmi les petites nations qui avaient vécu, enfin, dans l'enceinte de l'Empire. Et donc, de ce point de vue, beaucoup dépendrait, enfin, d'une part, de l'Europe, qui est en train de se trouver elle-même. C'est pas encore abouti, loin de cela. Voilà. Et mais de la Russie, pareil, parce que je peux vous dire que tant que l'Europe ne formulera ce que je qualifierais de son Ostpolitik, de sa politique européenne, de sa vraie politique en direction de son projet stratégique en direction de la Russie, parce qu'il n'y a pas une Russie, il y a des Russies, il s'agit d'une société plurielle avec plusieurs courants, et parmi ces courants, vous avez, comme il y a 2 siècles, les occidentalistes, c'est-à-dire les pro-européens, vous avez les anti-occidentalistes, les slavophiles, les orthodoxes fondamentalistes qui sont restés anti-catholiques, même s'il n'y a pas évidemment la même nature de relation entre les deux parties de l'Europe, mais il y a aussi ceux qui se qualifient d'eurasiens, qui croient que, pourquoi pas, la Russie étant un pays charnière entre l'Europe et l'Asie, elle doit regarder autant vers l'Est chinois, vers l'Est musulman, qu'en direction de l'Europe. Et donc, de ce point de vue, c'est à mon avis, mais dans le contexte actuel, c'est quasiment plutôt la priorité européenne que russe que de formuler la possibilité de cette alliance et de cette coopération.
Alors, c'est pas pour demain.
De ce point de vue,
après-demain, ce serait déjà pas mal.
Oui, enfin, quand on voit les chiffres de la démographie, tant des Russes que des Européens, le temps presse quand même.
Ce sont les Turcs qui vont nous expliquer finalement ce qu'il faut faire.
Oui.
Du point de vue de ce que les Eurasiens que vous mentionnez, Andrei Gertchev, que pensez-vous d'auteurs comme Parvulescu ou Dugin? Est-ce que ce sont des gens, pour vous, qui ont un discours intéressant, sérieux, construit, ou est-ce qu'ils représentent ce courant eurasien aujourd'hui en Russie, est-ce qu'ils le traduisent bien?
Écoutez, c'est un courant qui n'est pas important numériquement, mais qui a un certain potentiel et qui peut puiser sa force prochaine précisément dans la somme de ces souffrances, de ces épreuves qu'avait vécu la Russie. La frustration, l'humiliation nationale, le sentiment comme si la Russie reste l'enfant mal aimé par l'Europe, qu'il s'agissait, pour l'Occident, de continuer la démarche de sa marginalisation, comme si on la repousse hors de l'Europe, comme si on voudrait tracer la nouvelle frontière de l'Europe sur la frontière orientale, bon, déjà plus de la Pologne, mais de l'Ukraine, mais de cette façon, repoussant la Russie en direction de l'Asie et de la Chine. Et naturellement, les courants, bien dont M. Douguin est le porte-parole, mais il y a d'autres aussi, plus agressifs, plus chauvinistes, plus nationalistes. Il faut non plus ignorer un phénomène qui est nouveau pour la Russie en tant que nation, historiquement impériale, c'est-à-dire une nation qui était plutôt universaliste dans son attitude à l'égard des autres nations. Maintenant, il s'agit d'une nation qui se sent menacée. Et ça provoque un phénomène du nationalisme. Là, un phénomène que la Russie, en tant qu'un énorme pays, un très grand pays, n'a pas connu auparavant. Douguin peut être le porte-parole de ce nationalisme, de ce sentiment d'une nation blessée, de cette nation qui ne retrouvera pas des partenaires ou de l'accueil, je dirais, dont elle croit et qu'elle a mérité, surtout par le fait que le début de la transition, sa sortie de son régime totalitaire, c'était sa propre initiative. La Russie n'a pas attendu, comme les Allemands ou les Japonais, à ce que la force extérieure vienne pour écraser le régime totalitaire. C'est à l'intérieur de la société russe, soviétique à l'époque, que sont sorties les forces qui avaient écrasé, qui avaient démonté le régime totalitaire. Et donc cette démarche, cette recherche de la démocratisation du système, qui avait comme un des objectifs la rencontre de la Russie avec le monde extérieur, si elle ne trouve pas l'écho, la réponse, et évidemment ça va terminer, ce qui est le cas d'ailleurs par exemple maintenant dans pas mal de sondages dans l'opinion publique de la Russie, les gens accusent Gorbatchev d'avoir trahi les intérêts nationaux de la Russie par le fait d'avoir commencé à démonter le système soviétique et le système, la structure impériale de l'ex-État soviétique.
Ce qui renvoie donc à votre titre de livre, Staline est-il mort? On voit que dans les réponses que vous apportez, la réponse n'est pas forcément tranchée. On va, André Gratchev, merci beaucoup pour cette interview. Comme il est tradition, avant qu'on ferme cette interview, pour laisser quand même quelques minutes à Patrick sur la chronique culturelle. Est-ce que vous avez un message ou un dernier thème que vous souhaitiez aborder avant qu'on se sépare?
Peut-être un petit retour au thème majeur de la soirée, en tout cas Philippe Christel, tel que vous l'avez donné, la mort de Milosevic en tant que russe et représentant en plus de la diplomatie russe à une certaine époque. Quel jugement, vous, portez-vous sur l'action de Milosevic en particulier et en général sur l'influence, ce qu'il reste de l'influence russe auprès des Slaves du Sud et de l'Europe?
Écoutez, j'ai trouvé que c'était tout à fait logique de ce que le nom de Milosevic ressort dans cette émission, non seulement parce que c'était l'événement de ces jours, mais puisque, paraît-il, le titre de l'émission, c'est les voix de la vieille Europe, parce que pour moi, Milosevic, effectivement, représentait ce qui restait, déjà peu, de ce qui était la vieille Europe. La vieille Europe qui était en train et qui est en train de disparaître. Bon, la vieille Europe, pas dans le sens de Rumsfeld, évidemment. Mais même si on dit que de défunt on ne parle que bien, de toute façon, c'est une sorte de dicton russe, je dirais que Milosevic s'est trompé fatalement de l'époque. Et il a essayé de jouer à une sorte d'un Bismarck des Balkans à l'époque, qui était très éloigné du 19e siècle. Et évidemment, autre constat, mais c'est pour cela qu'il doit être jugé plutôt sévèrement comme homme politique, et il ne pouvait ne pas tenir compte de la nouvelle balance des forces, de la réalité internationale, aussi suite à l'effondrement de l'ex-Union soviétique.
Comparer Milosevic à Bismarck, c'est une forme d'hommage. D'habitude, ce n'est pas à Bismarck qu'il est comparé en France. Un autre Allemand.
Bien, merci beaucoup. En tout cas, vous restez avec nous, si vous le voulez, pour les quelques dernières minutes. On va même pas passer de jingle dans cette émission un petit peu décousue. On va donner tout de suite la parole à Patrick Péel pour quelques brèves
très vite dans
culturelles.
Le parce que j'avais pas énormément préparé. Il y a deux ou trois choses importantes à faire en ce moment. C'est d'aller voir premièrement l'exposition avec Pierre Bonnard. Le lapsus. Oui. Pourquoi il faut aller voir Pierre Bonnard? Premièrement, parce que Picasso n'aimait pas sa peinture, ce qui est un vrai argument. Deuxièmement, parce que c'est l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Troisièmement, parce que c'est au Palais de Tokyo, qui est le plus beau monument de Paris. Et quatrièmement, c'est jusqu'au 7 mai 2006.
T'es juste voilà. Le Palais de Tokyo, c'est où? Qui est tellement beau dans Paris que je crois que personne ne me l'a montré.
Le Palais de Tokyo. Vous voyez pas en face de la Tour Eiffel?
Je suis plutôt vieille Europe. Hein. Al Trocadéro.
Ben voilà. D'accord. Il est juste à côté.
D'accord. Vous avez référence.
Oui, absolument. C'est le musée d'art moderne de Paris.
Parfait.
Voilà.
C'est vrai que j'y vais pas souvent.
Donc,
je suis au musée de la Marine, mais bon.
Vous n'êtes pas moderne.
Il est pas loin.
Je suis pas musée.
Bon, je vais vous parler musique. Alors, je vais vous parler d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La scène musicale des années 80 en France. Deux labels indépendants ont eu la bonne idée. Attendez, j'ai même pas terminé. On a eu la bonne idée d'éditer un DVD d'archives retraçant l'énergie créative de la scène française de la fin des années 70 au début des années 90. Ils avaient déjà sorti une compilation CD il y a un an, Transmission 81-89. Cette fois, l'image rejoint la musique. Et ils ont fait un remarquable travail d'archives, de clips vidéo, d'extraits de concerts de cette scène mythique. Et sans tomber dans la nostalgie, on pouvait trouver en France une vraie musique européenne dans la lignée de la cold wave anglaise. Rien que leur nom.
C'est la genre de la Hoy, mais non, c'est pas ça.
C'était la New Wave, enfin ce qu'on appelait la New Wave.
Selon vous parlez. Ouais.
Rien que leur nom était et voulait représenter un esthétisme froid et européen. Je vais vous en citer certains noms de groupes, dont certains je connaissais même pas. Art et Technique, qui nous chantait Radio City Deutschland. Jade Vio, qui fut produit à une époque par le célèbre Bertrand Burgala. Marquis de Sade.
Oui.
MKB Fraction Provisoire, mais je trouve ça extraordinaire comme nom, qui chantait Le Chant des Hyènes. Guerre Froide, qui nous chantait Demain Berlin. Donc si vous voulez retrouver ce DVD et la nostalgie de vos 20 ans, ou par simple curiosité, voici les références, c'est RVB Transfer.
Il n'y a rien sur Jean-Pax Méfray là?
Non, j'ai rien du tout sur Jean-Pax Méfray, mais j'ai une autre brève musicale qui est encore plus importante que Jean-Pax Méfray.
Jean-Pax Méfray, c'est pas de la nostalgie, c'est de l'actualité.
Je vais vous donner quand même la possibilité de trouver ce DVD. C'est le RVB Transfer, image de la scène indépendante française 1978-1991. Vous pouvez le trouver, alors vous n'allez pas le trouver à la FNAC, ou à mon avis ça m'étonnerait, mais je vais vous donner un site internet, vous êtes sûr de trouver toute cette musique qui s'appelait alors www.french-new-wave.com, c'est pas difficile à trouver, et vous allez trouver des vrais bonheurs sur le plan musical et ce DVD.
Donc rappelons que nous sommes sur Radio Courtoisie.
Maintenant je vais vous parler de la musique actuelle.
Francophone.
J'avais pas grand chose. Ouais, alors francophone, mais j'ai un ami qui a toujours la bonne idée de m'envoyer des bonnes blagues sur internet. Et qui m'a envoyé les paroles d'une jeune chanteuse qui paraît qu'il y a du succès chez les adolescents. Alors on critique le rap qui est super violent. Alors là, c'est vous allez voir, c'est très fun, comme on dit chez les jeunes. Elle s'appelle Anaïs et elle a créé une chanson qui s'appelle « Elle sort qu'avec des blacks ». Je vais vous lire les paroles parce que c'est quand même incroyable. Je suis incapable de vous la chanter parce que je suis pas arrivé à l'entendre. Alors, elle aime bien le cliché antillais du gars bien habillé qui dit tu danses comme au pays. Elle adore qu'il se presse sur son corps tout doucement en ondulant. De plus en plus fort, ils savent se parfumer pour qu'elle se laisse enivrer. Elle ne veut pas résister de les embrasser dans le cou. Refrain, elle sort qu'avec des blacks, elle sort qu'avec des blacks et quand son rêve se casse, un autre prend sa place. Donc, cette jeune chanteuse pleine de talent, j'ai décidé de lui écrire une petite lettre. Ma chère Anaïs, tu es peut-être une chanteuse talentueuse, mais j'ai remarqué que tu avais quitté tes études à la faculté d'Aix-en-Provence. Parce que j'ai quand même fait une recherche sur sa bio. Hein. C'est une chanteuse connue. Hein. Attendez, je suis quand même journaliste. Ce qui est bien dommage,
car tu aurais pu peut-être étudier en histoire ou en géographie que les Africains ne se résument pas à des objets sexuels bien habillés. Ma chère Anaïs, les Africains sont des humains et tu ne peux pas les traiter comme un fantasme, comme certaines femmes à l'époque du Grand Sud sortaient avec un esclave pour se donner quelques frissons. Donc je te conseille vivement pour ta culture de lire quelques livres de notre cher Bernard Lugan qui te permettra de mieux connaître la situation des Africains qui ne sont pas que des blacks. Cordialement, Patrick PL.
Voilà, j'ai répondu. Un grand moment d'éco-différentialisme.
Sincèrement... Vous êtes un humaniste, Patrick PL.
Mais attendez, c'est vos enfants qui écoutent ça, donc il y a un moment...
Non, du tout.
Mes enfants écoutent de la Cold Wave.
C'est ce que vous croyez.
Mes enfants écoutent Jean-Pax, mes frères. Ils feront comme leur père.
Bon, j'ai encore quelques minutes. Un petit livre.
Allez, un petit.
Oh, allez, j'ai lu un peu. Si j'arrive à trouver, voilà. Si il faut lire quelque chose, tout le monde depuis 2 ou 3 ans ne lit que le Da Vinci Code, qui est une vraie ânerie. Donc il y a un vrai et grand bouquin qui est sorti maintenant depuis 1 an d'un jeune auteur qui s'appelle Philippe Cavalier, qui est étudiant à l'École pratique des hautes études, diplômé de l'Institut des langues et civilisations orientales. Vous voyez, je fais quand même grand sérieux. Oui. Ainsi que de littérature comparée. Alors Philippe Cavalier se passionne tout autant pour l'histoire des religions et les aspects méconnus ou oubliés de celles-ci que pour les études des croyances religieuses et pratiques ésotériques. Étudiant en lettres à la Sorbonne, il vise un doctorat sur les sorciers et magiciens dans la littérature européenne. Et il vient de sortir le début d'une tétralogie, donc je répète 4 livres, c'est Le siècle des chimères. Et ça commence par son premier tome, les ogres du Gange, et le deuxième, Les loups de Berlin. Ils sont sortis tous les deux et c'est magnifique. Captivant, intelligent, enfin 2 grands livres d'aventure sous la plume d'un auteur français. Son héros, David Tweps, est un jeune agent inexpérimenté du MI6 et se retrouve au beau milieu d'un complot qui le dépasse, autant que nous. Avec les ogres du Gange, nous avons ainsi la chance de suivre le héros narrateur et de comprendre un à un, au même rythme que lui, les rouages de la gigantesque machination dans laquelle il est embarqué. Je suis sûr que vous avez envie de
dire. Surtout les loups de Berlin qui nous intéressent.
Alors on est très vite plongé dans les Indes des années 30. Première question, qui est Ostara Keller, cette belle blonde éliminant ses ennemis par des pratiques ésotériques ou avec sa daguesse? Deuxièmement, à quoi sert une école où l'on recrute des jeunes surdoués partant vers l'Allemagne? Troisième question, que fait ce couple roumain ayant créé cette institution et recevant la maîtresse du roi d'Angleterre? Et pourquoi Ruben Hessner, un intellectuel juif, collabore avec les nazis pendant la guerre? Eh bien tout ça, Philippe Cavalier... vous le dira sur ces 2 tomes. Pour ceux qui n'ont pas aimé le Da Vinci Code, voici enfin un vrai roman d'aventure historique avec un style travaillé. Et pour ceux qui ont aimé le Da Vinci Code, eh bien, ils pourront s'apercevoir que Dan Brown est un mauvais écrivain. Donc je répète, c'est Le siècle des chimères de Philippe Cavalier. Les 2 premiers tomes, Les ogres du Gange et Les loups de Berlin pour le deuxième. Son 3e volume sortira au mai 2006 et c'est édition Anne Carrière. Voilà, moi j'ai fini. Si vous avez autre chose...
Deux choses. D'abord, rappeler le plus récent des livres de notre invité Andrei Gradchev, qui est Le mystère Gorbatchev aux éditions du Rocher 2002, paru en 2002, et je pense que les auditeurs qui voudront le lire trouveront des prolongements des réponses et des sujets qui ont été évoqués ce soir. Deuxièmement, mentionner également, puisque j'en ai reçu un avis par mail, la fondation Polémique, dont on donne souvent le site internet www.polemia.com, www.polemia.com, vient de sortir un dossier totalement original, à la fois analytique et synthétique, sur les émeutes des banlieues de l'automne dernier. Donc c'est intitulé le dossier sur les émeutes du Ramadan. Il y a à la fois une recension des événements, avec comme d'habitude des analyses de la reprise médiatique de ces événements, avec un décryptage médiatique comme seul Polemia sait le faire. Il y a également tout un florilège de la manière dont la presse étrangère et ça, c'est la presse européenne, américaine, russe, chinoise et australienne parfois, une analyse dans la manière dont la presse a rendu compte de ces événements, et puis donc toute une série de citations d'acteurs directement ou indirectement impliqués sur le sujet. Donc www.polemia.com, sur le site, on doit pouvoir commander cet ouvrage pour se le faire livrer. Et puis il y a une question qui nous est adressée par un auditeur, mais je vais vous la poser.
poser à vous qui êtes le spécialiste culturel, Patrick. Est-ce que vous irez voir le thriller fantastique français qui vient de sortir sur les écrans, Renaissance, qui se passe dans le Paris des années 2054 et qui est un film d'animation en noir et blanc?
Oui, je l'ai vu. J'ai eu la chance de le voir en... C'est mauvais sur le plan scénario, c'est très mauvais. C'est esthétiquement très très beau, sincèrement, mais le scénario est léger. Et c'est dommage parce que franchement, c'était une bonne initiative au départ.
D'accord. Xavier Van Lierde,
pour terminer, un dernier conseil à nos auditeurs et notamment aux nombreux auditeurs qui nous ont appelés pour nous dire tout le bien qu'ils pensaient de Milosevic et tout le mal qu'ils pensaient de la guerre injuste qui avait été faite à la Serbie. Je conseille la lecture d'un ouvrage fondamental qui est un document pour l'histoire. Ce sont les heures du procès Milosevic. En l'occurrence, le témoignage de l'un de ses témoins en défense qui s'appelle Patrick Barrio, ainsi que de sa compagne Eve Crépin. Tous deux étaient casque bleu en Serbie dans les heures les plus sombres de ce pays et sont venus témoigner en faveur de Milosevic pour dire ce que eux en tant que casque bleu français avaient vu sur le terrain. Le livre s'appelle donc Le procès Milosevic, c'est aux éditions L'Âge d'Homme, c'est un ouvrage fondamental pour qui veut comprendre cette période et l'iniquité de toute justice internationale.
Donc Le procès Milosevic
aux éditions L'Âge d'Homme et c'est signé par Patrick Barrio et Eve Crépin.
Bien, bah écoutez, merci à vous, Patrick PL, Xavier Van Lierde, Grégoire Gambier et Olivier Lebrun. Notre invité vient de nous quitter et donc je le remercie en son absence, mais les auditeurs nous en saurons gré également. Ces chroniques de la vieille Europe s'achèvent. Merci à vous de les avoir suivies. Merci au Libre Journal de Serge de Beketch de nous héberger sur Radio Courtoisie. Et puis nous retrouverons donc très probablement à une date qui n'est pas encore connue, mais ça fait durer le suspense. C'est bon pour l'Audimat, donc d'ici un mois et demi. Merci à tous et bonne soirée.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look up.